pour donc répondre à nos questions, à vos questions. Nous accueillerons différents intervenants qui se présenteront lorsqu'ils vont prendre la parole, que nous remercions vraiment pour leur précieuse collaboration. Avant de céder la parole, je souhaite donc vous rappeler que l'Association des maires aime à recueillir votre avis sur le déroulé de toutes nos séances d'information et donc sur cette séance notamment, vous avez trouvé sur votre chaise une petite feuille d'évaluation que je vous remercie de remplir et de nous redonner avant de quitter cette soirée. Merci pour votre présence, excellente réunion à vous toutes et tous. Et je passe la parole peut-être à Mathieu avant Jacques. Je n'ai évidemment pas présenté, mais vous les connaissez, Mathieu Klein, vice-président du Conseil Général, et Jacques Fleurantin, président du Carrefour des Pays Lorrains, entre autres président de sa communauté de communes de Sailly-Mochère, et Michel Pilot, vice-président du Conseil Général. Donc uniquement pour les instances qui se sont réunies dans le cadre de la semaine égalité, fraternité, agissez, mais Mathieu va en parler bien mieux que moi. Donc c'est vrai que nous conduisons ce travail depuis plusieurs années et que nous en sommes ravis.
Merci Rosemarie. On salue aussi Jacques à mes côtés. C'est vrai que je voudrais commencer par dire que moi je suis très heureux vraiment que ce partenariat entre l'Association des maires, le département, le Carrefour, s'inscrive dans la durée. Parce que au départ était née l'idée que nous avions beaucoup d'élus qui avaient envie d'agir et qui ne savaient pas forcément, non pas comment agir, mais à un niveau de responsabilité communale, intercommunale, départementale, que peut-on vraiment faire lorsqu'on parle de lutte contre les discriminations? Parce qu'il y a évidemment ce qui nous réunit tous, c'est-à-dire l'attachement aux valeurs de la République, l'attachement à l'égalité entre tous les citoyens, la loi, qui évidemment est celle qui protège et qui dicte les normes dans la société. Mais nous savons toutes et tous, parce que nous sommes élus locaux, qu'une loi aussi belle soit-elle, et Rosemarie vient de le rappeler, avec la loi sur l'accessibilité des bâtiments publics et les délais d'application, une loi aussi belle soit-elle, aussi pleine de bonnes intentions soit-elle, si elle n'est pas portée, traduite, si elle ne correspond pas à la réalité de vie des citoyens et donc de leurs élus locaux, elle restera une loi de proclamation, une loi d'intention, et elle aura beaucoup de mal à devenir une réalité concrète pour beaucoup de nos concitoyens. Et c'est de ce constat finalement assez simple qu'est née notre volonté de travailler depuis plusieurs années en direction des élus locaux, non pas pour donner une sorte de prêt-à-penser politiquement correct, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, personne n'est raciste, personne n'est discriminant, mais partant de la réalité de vie des territoires, des élus locaux et des habitants, comment agir? On a travaillé sur la restauration collective, on a travaillé sur ce qu'était une discrimination et sur les recours, sur le logement, et là aujourd'hui on travaille sur la question de l'accessibilité, du handicap, des handicaps. On aura bien d'autres sujets à travailler encore dans les mois et les années qui viennent. Et ce rendez-vous, je trouve ça important qu'il prenne sa place, et il prend sa place dans le cadre, Rosemarie l'a évoqué, des rencontres annuelles Égalité Fraternité AGC, qui en sont cette année à leur 8e édition, qui sont des rencontres départementales consacrées à la lutte contre toutes les formes de discrimination, non pas en créant un événementiel un peu artificiel pour venir briller pendant quelques jours, mais plutôt en mettant en lumière les acteurs de terrain, comme vous ce soir, comme d'autres partout dans le département, qui agissent au quotidien contre les discriminations et sur lesquels nous voulons attirer l'attention. Vous avez le programme complet. Je vous invite à profiter de ces moments, parce que c'est des moments de rencontre, de rassemblement, d'échanges qui sont très intéressants. Pour terminer simplement sur l'enjeu qui nous rassemble ce soir, je ne reviens pas sur ce qu'a évoqué Rosemarie Falk, sur la nécessité aujourd'hui de mettre un coup d'accélérateur, avec les moyens qui sont les nôtres, à la prise en compte de l'égalité d'accès à la fois aux bâtiments publics, mais globalement l'égalité entre les personnes vivant avec un handicap et les personnes dites valides. Cela vaut pour l'accès à l'emploi public ou à l'emploi privé, mais en ce qui va nous concerner plus particulièrement ici, c'est l'emploi public. Cela vaut évidemment pour l'accessibilité des bâtiments. Cela vaut pour l'accessibilité, moi je regarde ça aussi avec ma casquette de vice-président à l'éducation au Conseil général d'accessibilité des établissements scolaires et des collèges, de la restauration scolaire, qui est un grand sujet, notamment aujourd'hui dans le cadre du plan collège nouvelle génération. Eh bien, c'est un impératif que nous avons mis sur le dessus de la pile pour les opérations de restructuration légère comme de restructuration lourde, évidemment pour les opérations de construction neuve, cela va de soi, mais on voit à quel point aujourd'hui la mise en accessibilité des collèges à la fois est un enjeu pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes qui vivent avec un handicap en général, et pas seulement les handicaps physiques d'ailleurs, handicap sensoriel, handicap psychique, parce que là aussi les équipements publics comme les collèges doivent être adaptés. Mais on voit bien que lorsqu'on parle de travaux mis en accessibilité, on dépasse largement, et c'est ça qui est intéressant, le champ de l'accessibilité aux personnes qui vivent avec. Parce qu'on va aussi essayer de rendre plus accessible à bien d'autres personnes. On va aussi travailler sur les circulations, sur le lien, sur la place des familles dans l'établissement, sur le mode d'accueil des personnes qui viennent temporairement dans le collège. Et donc cela ouvre aussi dans la discussion et dans l'échange des questionnements qui surviennent à l'occasion de ce débat, mais qui concernent bien plus largement que les personnes qui vivent avec un handicap. Ce qui est donc bien la preuve que le handicap est un révélateur social, que c'est à la société de s'adapter au handicap et non pas aux personnes qui vivent avec un handicap de s'adapter au fonctionnement de la société. Et c'est pour nous, et ça Michel Pilot le dira mieux que moi, elle qui suit ce dossier-là au quotidien au Conseil général, c'est pour nous une clé d'entrée dans la discussion. Juste un chiffre pour finir, parce que j'ai quand même demandé de voir régulièrement comment évolue finalement la place des personnes qui vivent avec un handicap parmi les effectifs du Conseil général. Il faut toujours mieux commencer par balayer devant sa porte avant de vouloir aller prêcher ailleurs la bonne parole. Et c'est vrai que nous ne sommes pas, par exemple, au Conseil général de Meurthe-et-Moselle, nous n'avons pas encore atteint les 6% d'emplois occupés par des personnes qui vivent avec un handicap. Ceci dit, nous progressons d'année en année. On est passé de 2,7% en 2007 à 4,6%, à 4,06% pardon, en 2009, à 4,25% en 2011 et à 4,5% cette année en 2013. Donc c'est une progression constante, certes, qui n'est pas exceptionnelle, mais constante. Et en tout cas, c'est un objectif que nous nous donnons et que nous avons fixé. Et là, c'est aussi particulièrement René Mangin, en tant que vice-président aux ressources humaines au département, qui suit ce dossier-là, qui nous avons fixé à nos services de continuer à avancer sur ce champ. Voilà, j'en termine par là. Jacques, tu nous dis un mot également.
Merci. Oui, un mot très rapidement pour vous dire à toutes et à tous un grand bonjour et toute ma satisfaction de continuer ce partenariat. C'est la quatrième rencontre que nous organisons ensemble. Je crois qu'à chaque fois, on voit le nombre de participants grandir. Donc c'est l'intérêt que vous portez aux initiatives que nous créons. Moi, je serai très court. Pourquoi ? Parce que j'ai une lourde responsabilité dans cette soirée. C'est d'essayer de réguler le mieux possible la prise de parole des uns et des autres. J'aurai une autre responsabilité, c'est d'essayer d'avoir quelques propos de conclusion. Donc, bonne soirée à tous. Ne soyez pas trop frustrés si de temps en temps vous voyez lever le doigt. On va essayer pour que 19h30, 20h, tout soit fini. Voilà. Merci d'avance aux intervenants. Et puis, bonne soirée à toutes et à tous. Merci.
Ça ne doit pas être trop long parce qu'on m'a dit pas plus 15 minutes. Non, mais Madame Thio m'a dit pas plus 15 minutes. Ça a été une négociation difficile, vous savez, parce que initialement on est parti sur une demi-heure. Alors j'étais beaucoup plus à l'aise ce faisant. Bien, écoutez, je serai donc aussi bref que possible, en tout cas dans les 15 minutes qui me sont réparties. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Et pour rétablir une vérité, j'ai aperçu dans le programme que j'étais véritablement valorisé, puisqu'on m'avait mis deux jeunes abonnés, d'une part, et qu'on qualifie de philosophe, ce qui est quand même, à mon avis, un peu excessif. Il faut bien le reconnaître. Je ne suis pas philosophe, il m'arrive de philosopher, et c'est un peu, effectivement, sur cette voie que je voudrais vous engager aujourd'hui pour réfléchir un petit peu avant le concret. Un peu de spéculatif ne fait pas de mal, et je voudrais effectivement attirer un petit peu votre attention sur cette question-là, sur la véritable nature du handicap, ce qui est véritablement l'essence du handicap, de tous les handicaps en général, mais plus particulièrement de celui évidemment que je connais le mieux, qui est le handicap moteur.
C'est sur le pied, Olivier.
Ah, sur le pied. Voilà, l'accessibilité, ça commence par là.
L'homme serait quand même... Vous savez, un quart d'heure, c'est long. Quand même.
Non, mais je sais, monsieur Bonnet.
Peut-être que je peux le tenir.
Attendez, tiens, regardez-vous.
Non, attends, ça sera plus simple.
J'ai toujours des problèmes de micro. Hein.
Oui, toujours. Si c'était là, voilà, ça n'irait pas mieux.
Est-ce que vous m'entendez, là?
Sur le côté, oui, j'ai de la marge.
Ça commence comme ça, l'accessibilité.
Voilà. Un peu plus bas, parce que là, c'est un peu, à mon avis. Hein. Voilà. Bon, ça marche. Ça fonctionne. Alors, je ne sais plus où j'en étais, du coup. Voilà. Effectivement, je vais vous inviter dans ce chemin un petit peu, qu'on pourrait qualifier de philosophie, pour savoir ce qu'est l'essence du handicap, comme je le disais, spécialement de celui que je connais le mieux, mais ils ont des points de comparaison évidents, qui est le handicap moteur. Alors on connaît un peu la définition de la loi 2005, qui fait référence à une défaillance corporelle, une défaillance physiologique, fonctionnelle, et à une inadaptation de l'environnement. C'est très bien, c'est pas faux, et nous sommes d'accord. Sauf que ça reste un peu à l'interface des choses. Mon expérience de responsable associatif m'a amené, je l'expliquais il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, à Metz, a amené à constater que le handicap s'analyse en fait à un triple dépérissement. Celui du hasard, de la spontanéité et de l'espace. On me dirait qu'est-ce que tout ça vient faire ? Je vais vous l'expliquer, du moins je vais tenter de le faire. Le hasard, commençons par le dépérissement du hasard. Une personne handicapée, par hypothèse, a une mobilité réduite, une perte d'autonomie. Elle se retrouve donc, par nature, cantonnée chez elle. Hors d'atteinte de ces faisceaux de causalité qui, à l'extérieur, façonne les destins de chacun. Tous dans cette salle, réfléchissez à ce qui a fait votre vie, à ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes ici. Et vous verrez que la part du hasard est prépondérante. Les personnes handicapées sont étrangères à ces faisceaux de causalité. Elles ne les vivent pas, il ne leur arrive rien, et elles vivent dans une atmosphère extrêmement raréfiée d'événements. Ces événements fondateurs, vous avez on parle de ces hasards nécessaires qui font que vous avez loupé le train et c'est parce que vous l'avez loupé que vous rencontrez votre conjoint, votre futur employeur, par exemple. Tout ça est étranger aux personnes handicapées. Elles finissent par s'identifier à leur handicap parce qu'elles ne peuvent pas prétendre un autre destin. Et sont privés, je résume hein, très rapidement ce que je suis sur ce point intéressable, elles finissent par ne pas connaître cette extraordinaire aventure de pouvoir se préférer autre. La phrase n'est pas de moi, elle est d'un philosophe authentique, celui-là. C'est extrêmement important. Imaginez une vie sans hasard. C'est exactement ce que la personne handicapée dans laquelle la situation dans laquelle la personne handicapée se trouve. Deuxième dépérissement, celui de la spontanéité. vous n'imaginez pas à quel point la vie d'une personne handicapée doit être programmée. Elle ne vit pas dans le présent, mais dans un perpétuel avenir à construire. Il faut tout prévoir, les aides humaines, quelquefois sur 8 jours, les déplacements, la destination choisie d'ailleurs plus par la faisabilité du chemin que par un véritable choix. Il faut construire tout cela. Et cette architecture que l'on s'est prescrite est invariable. En ce sens que l'imprévu en est exclu, l'imprévu est redoutable, l'imprévu est craint, aucune improvisation n'est possible. Cette programmation du futur devient un véritable oukase qu'il faut respecter. Dans cette vie montée sur rail, c'est tout à fait le cas, il n'y a pas d'aiguillage possible. C'est dire que l'on perd aussi une part de cet aléa dont je parlais tout à l'heure, puisque tout étant programmé, l'aléa n'a pas sa place, c'est évident. Et il y a là cette mort de ce que les philosophes, les vrais encore une fois, appellent la sérendipité. La sérendipité, c'est cette, vous le voyez très bien, vous le pratiquez régulièrement avec Internet, où vous allez sur Internet, par arborescence, vous faites des rencontres, vous allez d'une révélation à une autre révélation, vous cheminez, vous naviguez, et de cette sorte, de manière-là, vous faites des découvertes. La personne handicapée est privée de cette sérénité, puisque, par hypothèse, elle doit programmer sa vie. Je passe là aussi rapidement, j'aurais énormément à dire. Troisième dépérissement, celui de l'espace. Ces trois dépérissements, je dois le dire, mais vous l'aurez compris tout seul, s'enchevêtrent et sont en fait uniques, très intriqués les uns dans les autres. Le dépérissement de l'espace, il est évident, privé d'autonomie, en tout cas en ayant peu, la personne handicapée est assignée à territoire. Et ça rejoint notre débat d'aujourd'hui, pour l'essentiel. Mais je voudrais vous faire comprendre quand même que les trois sont très très liés. Hein. Donc assigner un territoire, pourquoi? Eh bien parce que le monde est évidemment, même dans ce qui relève de l'industrie humaine, extrêmement étanche pour les personnes handicapées. Et en dehors de parcours balisés, souvent dépourvus de saveur, le monde est interdit. Alors, soyons clairs, le monde le sera toujours. L'univers sera toujours interdit. Je verrai avec amusement la tête de mes accompagnateurs si j'exigeais d'être monté en haut du Mont Blanc. Je le mets à leur place. Le Mont Blanc ne sera jamais accessible. En tout cas, le serait-il par quelques moyens invraisemblables que l'essentiel de ce qui ferait son accessibilité, c'est-à-dire de pouvoir l'escarper, ne pourrait pas m'être donné. Pour sortir de ces parcours balisés, il faut un effort considérable. Considérable. De telle sorte que la tentation est forte, très forte, quelquefois irrésistible, pour les personnes handicapées, de préférer, comme je le dis, la carte au territoire. J'entends par là qu'ils préfèrent la représentation du monde à sa réalité. Pour le dire autrement, la télévision, l'ordinateur, plutôt que le concret du contact extérieur avec la réalité. Or, il est évident que cette image, virtuelle ou pas, désigne un ailleurs dans lequel on n'est pas. Il est évident qu'aucune image, aucune représentation ne dira jamais la totalité du monde, aucune carte ne dira jamais la totalité du territoire. Troisième dépérissement, par conséquent. Si je suis trop long, vous me le dites. J'en suis à moitié, ça va? À peu près. Hein,
je serai plus exigeant sur les suivants.
Comment?
Alors,
discrimination.
Dans ces conditions, vous allez dire, que faire? Que faire, effectivement? D'abord, soyons clairs, le handicap est irréparable. Ne n'oublions pas de mots, le handicap est irréparable. Pour autant, il ne faut pas évidemment baisser les bras, et il y a beaucoup à faire, et on a déjà beaucoup fait, même si ce n'est pas encore assez. Je crois, moi, pour ma part, et de là où je suis, de mon expérience personnelle, mais aussi de celle que j'ai tirée de ma vie associative, deux points sur lesquels, à mon avis, il faudrait insister. Deux verrous qu'il faudrait tenter de lever. Le premier concerne précisément cette spontanéité dont je vous parle. Il faut aujourd'hui repenser l'accompagnement. Il faut prévoir des services d'aide humaine, par exemple, qui permettent l'intrusion de l'imprévu sans que pour autant la vie n'en soit bouleversée. Il faut qu'on invente des services avec des amplitudes horaires considérables pour permettre une vie sociale. Trop souvent, les services auxiliaires de vie arrêtent de fonctionner à des heures qui sont beaucoup trop tôt et qui interdisent par conséquent cette vie sociale du soir, aller au cinéma, au théâtre, etc., voir des amis. Grande amplitude horaire. Il faut aussi des permanences 24 heures sur 24 pour des personnes très dépendantes, très lourdement atteintes. Et c'est un petit peu la notion du unité de logement-service, sur laquelle je pourrais, s'il y a des questions, revenir bien sûr. Ça me paraît extrêmement important si l'on veut que il y ait pour les personnes handicapées une plus grande présence au monde et une plus grande disponibilité à l'événement. C'est pas tout. Le deuxième point sur lequel je crois qu'il est nécessaire d'insister, c'est l'usage du monde. Vous voyez, quand je mets usage, je ne dis pas accès ni accessibilité. Parce qu'en vérité, c'est encore bien plus vaste. Il faut bien évidemment respecter les règles et les normes, les exigences de la loi 2005 et de ses décrets en matière d'accessibilité. Mais il faut aller au-delà. Au-delà et même, curieusement, quelquefois en deçà. Je m'explique. Beaucoup de règles concernant l'accessibilité sont des standards qui ne conviennent pas forcément à toutes les personnes handicapées. Monsieur Perrault ne me contredira pas, je pense tout à l'heure, en disant que certaines toilettes laissées, inutilement surélevées, enquiquinent énormément nos personnes handicapées. Hein. Ça, mais bon, c'est comme ça. Alors, il faut repenser ces choses-là. Il faut qu'on savoir, et c'est la notion d'usage, et de qualité d'usage qui doit primer. Il faut que soit consulté les personnes concernées, que le projet s'adapte à leurs exigences, leurs besoins. Il faut qu'il y ait, à côté d'une maîtrise d'œuvre, une maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'usage. C'est une notion qui émerge de plus en plus aujourd'hui. Une maîtrise d'usage qui permette de l'intimité de la chambre jusqu'à l'espace public, de s'assurer, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous le disiez, un cheminement qui puisse se faire avec, d'un bout à l'autre de cette chaîne, une accessibilité garantie. Ça me paraît absolument indispensable si l'on veut que l'intégration soit possible un jour, que ce dépérissement de l'espace dont je parlais à l'instant soit en soi peu résorbé. Quelqu'un a dit, et ça me revient à l'esprit, que le domicile privé doit devenir une affaire publique. Et il y a quelque chose de profond et de vrai, de très profondément vrai. Je constate pour ma part, par exemple, j'ai pas eu de chance, qu'aucun des amis que j'ai pu me faire dans la vie, j'en ai beaucoup, grâce à Dieu, aucun n'est accessible. J'entends par là à son domicile. Ils habitent tous, ces imbéciles, au moins au premier étage sans ascenseur, ce qui me contraint, si je veux aller chez eux, à des exploits assez rocambolesques, parce que monter un étage, voire deux, avec un fauteuil même manuel, parce que je ne leur impose quand même pas dans ce cas-là, le port d'un fauteuil électrique, mais c'est quand même acrobatique. Je suis donc privé de cette sociabilité que je pourrais avoir avec des amis que je dois inviter chez moi ou au restaurant. C'est pas forcément antipathique, mais je très difficilement aller chez eux. Et alors, un seul qui habite à un étage avec ascenseur ou un rez-de-chaussée. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous amener un petit peu à réfléchir sur ce qu'est le quotidien, la vie d'une personne handicapée. Il faut véritablement repenser l'accompagnement. Il faut véritablement repenser l'usage du monde. Alors, je citais récemment Victor Hugo qui disait qu'il n'y a rien de plus puissant au monde qu'une idée quand son heure est venue. Je ne sais pas si aujourd'hui cette idée-là de cette accessibilité, de cet usage du monde et cette présence au monde des personnes handicapées, je ne sais pas si son heure est venue. En tout cas, moi je n'ai pas la réponse, mais elle est probablement, au moins en grande partie, entre vos mains. Voilà, j'ai tenu les délais. Merci. Très bien.
Non, mais il nous arrive de travailler un petit peu de la mécanique de temps en temps. Bon, je vais le prendre à la main. Ah, bah, attendez, il y a celui-ci.
Bien, merci. Passer toujours derrière M. Bollet est toujours un exercice un peu compliqué pour moi. Mais c'est souvent qu'on a l'occasion de pouvoir, l'un après l'autre, travailler sur un sujet qui est important. Alors, Michel Pilot, je suis vice-présidente du Conseil général chargé de la solidarité entre les personnes et du développement social. Et également, je suis maire d'une commune, donc complètement concernée également par, je veux dire, l'accessibilité largement dit et en majuscule. Donc, répondre en quelques minutes à une question aussi importante que ça est un peu relève un petit peu du défi. Alors, pourtant, malgré la difficulté de pouvoir répondre très rapidement, mais les différents intervenants qui sont là compléteront sans doute mon propos et c'est ce qui est important, parce que je crois que chacun, les uns et les autres, nous détenons un petit bout de quelque chose qui peut nous permettre d'avancer ensemble. Et donc, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, étant donné les compétences que m'a confiées l'Assemblée départementale. Et je crois que, dans le cadre de la loi de 2005, l'élu tient une place importante, prépondérante, et c'est lui qui doit impulser un certain nombre de choses. Et le sociologue, un sociologue qui s'appelle Luc Boltanski, disait que nous étions des mailleurs. Donc c'est un beau terme et je crois que le mailleur doit être à l'écoute d'abord des personnes en situation de handicap, des acteurs du champ du handicap et puis également des évolutions du cadre légal puisque vous savez très bien que nous sommes les représentants de l'État sur les territoires et que nous devons répondre aux cadres légaux qui nous sont, aux évolutions de cadre légal qui nous sont donc données. Alors, nous devons également mettre en réseau les professionnels des services publics avec les partenaires de ces politiques publiques et bien sûr, toujours et toujours, en plaçant la personne au centre de la démarche. Et ce mailleur doit aussi réunir et impulser autour d'un projet de société qui doit bien sûr être partagé entre les collectivités, Je pense que ça, c'est important, quel que soit le niveau sur lequel nous nous trouvons, il est important que toutes les collectivités partagent et puissent analyser ensemble ce projet de société, mais aussi avec les acteurs associatifs et bien sûr les partenaires du champ du handicap, et puis toujours en incluant les acteurs de la société civile et toujours en associant les personnes elles-mêmes. Je crois que vous allez m'entendre le redire très souvent, puisqu'on ne peut pas faire sans les personnes. M. Bonnet a évoqué un certain nombre d'éléments sur ce sujet. Et si nous ne prenons pas attache auprès des personnes elles-mêmes, je crois qu'on passera à côté de quelque chose et que nous ne réussirons pas dans le travail qui nous est demandé, dans la réponse qui nous est demandée. Donc je l'ai dit, l'élu est un garant des valeurs républicaines et bien sûr doit s'assurer du respect de celles-ci. Donc, par rapport au travail mené sur notre département de Meurthe-et-Moselle et les principes que nous défendons, ils sont simples. Il s'agit d'abord d'apporter aux personnes handicapées des réponses personnalisées. Je répète, personnalisées. Les situations de handicap sont multiples. Chacun est différent et a besoin d'une réponse adaptée à son handicap. Et les situations, les histoires aussi, ainsi que les projets qui vont avec le travail que nous menons avec la personne. Et donc, elle a le droit, la personne handicapée a le droit d'être reconnue dans sa singularité et sa parole doit être écoutée et une réponse adaptée doit lui être également proposée. Alors, sur notre département, vous savez que nous avons mis en place sur chacun des 6 territoires de notre département un service qui s'appelle personnes âgées et personnes handicapées, pour lesquelles les personnes peuvent venir, je veux dire, à proximité pour avoir tout un tas d'informations qui permettent justement de pouvoir répondre à la demande, quelle qu'elle soit, et quel que soit le handicap de la personne. Je voudrais dire aussi qu'au sein du Conseil général, nous avons instauré, Mathieu a donné quelques chiffres tout à l'heure, mais je voudrais parler des correspondants handicap qui sont dans chaque service et au sein du Conseil général en lui-même, au sergent Blanc, mais également sur tous les territoires. Et donc, quand une personne en situation de handicap entre au département, enfin rue du sergent Blandant ou sur les autres services du département, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui peut lui répondre et qui peut répondre à son attente et aux difficultés, quelles qu'elles soient, puisque pour l'instant, beaucoup de bâtiments sont accessibles, mais il y en a encore certains qui ne le sont pas. Et c'est vrai que repenser l'accompagnement, comme le disait M. Bonnet, est quelque chose d'important. Alors, c'est une méthode, je pense, qui nous conduit à une méthode qui est claire, puisque c'est une méthode qui veut être dans la concertation et dans la transparence. Et le département, lui, veut consulter, bien sûr, tous les différents corps intermédiaires, les élus, les associations, et les associer systématiquement aux concertations qui sont mises en œuvre. Bien sûr, les élus locaux, je vous l'ai dit, dans le cadre de la loi 2005, sont les partenaires essentiels, mais également mobiliser tous les acteurs qui sont concernés par le champ du handicap pour mettre, bien sûr, en place notre mémoire collective afin de pouvoir répondre aux besoins qui nous sont donc demandés. L'enjeu de la loi de 2005 a récemment été rappelé par Madame la Ministre, Madame Carlotti, faire du handicap autant que possible une situation ordinaire. Alors, les besoins, je vous l'ai dit, sont différents d'une personne à l'autre, et ce n'est pas l'architecture figée de nos dispositifs actuels qui doit justifier le parcours de la prise en charge de la personne handicapée, mais bien au contraire, les besoins de cette dernière, qu'elle soit à titre individuel et à chaque moment de son existence. C'est bien une situation ordinaire dont nous devons parler, mais bien sûr, la dépendance également plus ou moins grande de certaines personnes ne doit pas être un prétexte pour les exclure ou alors les reléguer dans un autre champ. Faire du handicap une situation ordinaire, c'est réaffirmer notre volonté et notre faculté de vivre ensemble dans le respect de nos différences et la conscience de ce qui nous unit tous. c'est le président de la République, alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle, s'est engagé à ce que chaque projet de loi, chaque politique publique comprenne à l'avenir un volet handicap. Alors, si le président de la République s'en est engagé, il y a longtemps que le Conseil général a mis ce projet-là en place, puisque toutes les politiques publiques, et ça paraît toujours un petit peu interrogatif quand je le dis, parce que quand on parle de solidarité, pourquoi penser que toutes les politiques publiques sont interpellées par la solidarité ? Bien, moi je vais dire, quand il s'agit du transport, des collèges, comme en a parlé Mathieu, des routes, de la culture, du sport, etc., etc., la solidarité et donc le handicap partagent toutes ces politiques publiques, et nous devons, et nous le faisons, chacun en ce qui nous concerne dans nos responsabilités au sein du Conseil général, inclure le volet handicap, puisque nous avons besoin à chaque moment de pouvoir répondre aux difficultés des personnes en situation de handicap. Alors, nous sommes, mes chers collègues, élus locaux, de véritables garants de l'application de cette vision. Alors, quelques regrets quand même, parce que un certain nombre de plans viennent de sortir, comme le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et puis l'inclusion sociale, qui n'aborde pas suffisamment la problématique du handicap. Je crois que nous avons encore à faire remonter un certain nombre de choses pour que tous ces plans qui se mettent en place et qui sont votés doivent également inclure le champ du handicap complètement. Je vous l'ai dit, nous, dans le cadre du travail que nous menons au Conseil général, l'ensemble des politiques publiques sont transversales, et donc c'est tout l'enjeu des politiques publiques qui sont mises en œuvre par le prisme du développement social. Alors, nous avons de nombreux chantiers devant nous, et bien sûr, vous, élus, et nous, moi aussi, nous sommes pour partie les catalyseurs. Alors, celui qui est posé ce soir, c'est celui de l'accessibilité. Donc, nous n'avons pas le droit de reculer, et M. Bonnet le disait par rapport tout à l'heure, emprunter les transports en commun, monter quelques escaliers aussi, faire ses courses, aller chez le médecin, etc., etc. C'est un véritable parcours du combattant pour des millions de personnes qui sont en situation de handicap dans notre pays. Je ne voudrais pas redire ce que vous avez dit, M. Bonnet, mais on a souvent eu l'occasion de croiser un petit peu ces réflexions, et on sait très bien que c'est très difficile, puisque vous l'avez abordé. La semaine EFA qui vous est proposée, là, c'est une véritable opportunité pour nous tous, et pour tous les partenaires associés que nous sommes, pour pouvoir travailler sur ce sujet. Alors, j'ai souvent eu l'occasion, dans le cadre des réunions, et M. Mélenchon en parlera sûrement, quand nous travaillons à la préfecture sur l'accessibilité, je crois qu'il y a des partenaires aussi qui peuvent complètement être inclus dans ce travail-là. Moi, je pense souvent à l'école d'architecture. Il y a sans doute un gros travail à faire sur ce point-là. Vous faites des grimaces, monsieur Magnou ? Non, vous ne faites pas de grimaces. Et c'est vrai que je ne sais pas combien d'heures les étudiants en architecture peuvent passer sur, effectivement, évaluer et faire évoluer les bâtiments ou concevoir des bâtiments nouveaux dans ce cadre-là. Je parlerai aussi des entreprises. Écoutez, j'ai un exemple, puisque je viens de refaire sur la commune dont je suis le maire, une salle polyvalente, réhabiliter une salle polyvalente. Et cela, je vous assure que ce n'est pas toujours facile non plus avec les entreprises qui ne sont pas de mauvaise volonté, mais qui ne connaissent pas encore toutes les normes et toutes les façons de faire. Et ça, c'est un peu compliqué, puisque eux sont complètement au cœur de cette problématique-là, parce que si nous refaisons nos bâtiments, il faut aussi que tout le monde dans la chaîne puisse répondre à nos demandes en termes d'accessibilité. Et je ne parle pas que d'accessibilité en termes d'accessibilité fauteuil, mais je parle de tous les handicaps. Et je crois que ça, c'est très difficile aussi pour certains. Mais on a encore du chemin à faire, mais je le disais tout à l'heure, c'est en étant ensemble que nous pourrons aussi avancer dans ces situations-là. Un autre sujet qui est la scolarisation des enfants en situation de handicap. Et c'est vrai que ça avance, on ne peut pas dire que ça n'avance pas. En tant que présidente de la commission des droits à l'autonomie pour les personnes handicapées, il y a un gros travail de fait aussi avec l'éducation nationale, mais c'est vrai qu'il y a encore, et si on ne scolarise pas des enfants en situation de handicap, je crois que on gâche une bonne partie de notre jeunesse, et que cet espoir et cet avenir également est important. Donc, on sait très bien qu'un élève qui ne peut pas suivre correctement et convenablement sa scolarité, c'est d'abord une tragédie personnelle, mais aussi un énorme gâchis collectif. Et donc, il me semble qu'il nous faut donner des moyens à tous les enfants qui sont en potentialité d'être scolarisés, tous les moyens pour que ces enfants puissent suivre une scolarité tout à fait classique et dans de bonnes conditions. Un chiffre de 6000 enfants non scolarisés à l'heure actuelle à l'échelle de la France, donc il y a encore du chemin à faire dans ce travail-là. Et nous sommes donc fidèles à l'esprit de la loi et nous adoptons une logique de parcours pour penser l'articulation donc, entre les établissements ordinaires et les établissements spécialisés d'une part, entre les établissements et la scolarisation à domicile de l'autre. Il ne faut pas exister, il ne doit pas exister de filière, l'une qui est spécialisée et puis l'autre ordinaire, et tout cela en collaborant toutes les deux. Le troisième champ après la scolarisation, c'est celui de l'emploi. Mathieu a évoqué le nombre de personnes qui étaient en situation de handicap et qui travaillaient au sein du Conseil général, mais dans son ensemble. Là aussi, c'est un travail qu'il nous faut opérer en rapprochement entre l'économie et le sort qui est réservé aux personnes handicapées en France. C'est là un héritage de la France que nous devons garder à l'esprit. Puisque, rappelons-nous, lors du centenaire et à l'aube du centenaire du premier conflit mondial, les premiers mutilés ont obtenu que la reconnaissance de travailleurs handicapés soit celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc on sait que le taux de chômage des travailleurs handicapés est deux fois supérieur à celui des travailleurs valides et je crois qu'il est urgent d'agir pour que le seuil de 6% de personnes en situation de handicap dans les entreprises et la fonction publique soit enfin respecté. Je dois dire aussi que tout le travail qu'on a mené et Anne-Marie l'a fait avec beaucoup de courage, c'est pas toujours facile non plus pour une personne en situation de handicap d'évoquer son handicap par rapport au milieu du travail, au milieu de l'entreprise. Quelquefois, nous avons connu des situations où les personnes ne souhaitaient pas développer et donner la raison des difficultés qu'elles pouvaient rencontrer peut-être. Bon, alors après, chacun est libre et chacun a la possibilité de le dire ou de ne pas le dire. Mais en tout cas, je pense qu'il fallait quand même vous l'évoquer parce que c'est vrai que certains n'ont pas envie qu'on connaisse les difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans le cadre du handicap. Voilà, des sujets qui sont aussi des sujets d'envergure que nous met ensemble par rapport à la prise en charge de l'autisme, comme celle du handicap psychique. Il y a à Toul, je crois que c'est mercredi soir à 20h, une réunion avec l'UNAFAM sur le handicap psychique. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille beaucoup. Parce que c'est une maladie c'est un handicap et très très difficile. Et puis il y a un sujet sur lequel nous devons répondre, c'est le vieillissement des personnes en situation de handicap. Et là, nous avons mis en place un réseau d'accueil pour les personnes handicapées vieillissantes avec différents partenaires qui permettent à un moment de pouvoir répondre à la demande. Bon, maintenant, les personnes vieillissent, et je pense particulièrement aux personnes qui sortent des établissements des ESAT et qui ont des difficultés. Et là aussi, nous devons répondre aussi à ce champ-là. Alors, il y a de nombreux outils qui existent. Je suis en retard, Jacques. La prestation de compensation du handicap, je vais le dire. Et puis, vous compenserez. Et puis, je vais aller vite maintenant. Je vais aller vite. Donc, j'ai gagné quelques minutes.
Non, c'est bon, madame.
Je pense que la prestation de compensation du handicap, c'était effectivement un atout majeur dans le cadre de la loi de 2005. Je vais aussi parler de la création des maisons départementales des personnes handicapées, des MDPH. Pour nous, elle est située à l'Axou, rue Ernest Lebrun, qui sont à la fois des maisons communes et des guichets uniques, qui permettent aussi là de répondre à l'accueil, l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap, et puis d'avoir un interlocuteur unique et proche de son domicile. Bien sûr, ce n'est qu'une partie des choses qui peuvent être faites. Je crois que les défis sont encore là et qu'il faudra les relever et que, bien sûr, le concours des uns et des autres est indispensable. Je voudrais redire ce que j'ai dit au début de mon propos. Ne nous regardons pas seulement, mais regardons autour de nous et surtout avec les associations de personnes en situation de handicap qui connaissent aussi, elles aussi, qui ont toute la possibilité de nous aider, mais surtout avec les personnes elles-mêmes, pour comprendre un peu et comment nous devons faire et comment nous pouvons avancer ensemble. Voilà, c'est un sujet qui mérite, je pense, beaucoup plus de longs débats et de partage surtout entre les uns et les autres pour que nous puissions avancer dans ce sens et que nous puissions répondre. Je le redis, on a souvent l'habitude d'associer le handicap au handicap moteur, mais je crois qu'il faut que nous soyons conscients que ce n'est pas le seul handicap et qu'il y a beaucoup de travail à faire, surtout les handicaps que nous connaissons, et soyons attentifs à tout cela et ne restons pas seuls dans notre coin, partageons beaucoup de choses. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été... Oui, 15 minutes ? 16 minutes ?
Merci madame. Mesdames et messieurs, bonsoir. Devant la qualité des orateurs déjà passés, je me sens bien petit. Surtout devant M. Bonnel qui nous a fait un superbe exposé. Je voudrais donc me présenter, si vous me le permettez, Christian de Villers, maire de Pannes, membre du bureau de la communauté de communes du Chardon-Lorrain. C'est en cela que ce soir, je suis à côté de vous. Je ne suis pas, comme ça a été écrit sur ce papier, vice-président de la communauté de communes. Ça sera peut-être une prochaine fois. On verra. Je suis que membre du bureau. Notre communauté est composée d'un président, M. Olivier Jacquin, vice-président du Conseil général, et de 8 vice-présidents et 12 membres du bureau. Je ne suis donc que le 12e de ces membres. M. Jacquin m'a donc demandé sur ce dossier d'accessibilité si je voulais bien en prendre la délégation. Pourquoi m'a-t-il sollicité ? Parce que je suis moi-même père d'un grand garçon qui a 30 ans, lourdement handicapé, et placé dans une maison d'accueil spécialisée à Nauvéan-sur-Moselle. Naturellement, j'ai accepté cette délégation. Pour assumer cette délégation, et j'y tiens beaucoup, je ne travaille pas seul, mais en équipe. Je voudrais saluer, présente avec moi, Madame Sophie Allot, là-bas. Levez-vous, Sophie.
Voilà.
Membre de la communauté de communes, qui travaille... Et je voudrais saluer aussi une personne qui a été pour moi très, comment dire, le coup de cœur peut-être. Monsieur Béraud, membre de l'APF, Association des Paralysés de France. Il est vrai que quand Monsieur Jacquin m'a demandé de m'occuper de ce dossier, j'étais un petit peu perdu au départ. Donc la première personne que j'ai contactée, c'était Monsieur Béraud. Et depuis, on travaille en commun accord pour avancer dans ce dossier de l'accessibilité. Quelle a été notre... fonction au sein même de la communauté de communes, déjà de créer une commission intercommunale d'accessibilité. Pour ce faire, 39 communes composant notre communauté de communes ont nommé un référent, donc 39 personnes. On a pensé que pour travailler et avancer un peu dans ce dossier, réunir 39 personnes autour d'une table, c'était pas toujours évident. Donc on a créé une sous-commission, le COPIL, un comité de pilotage. On a réduit un peu cette équipe de façon à pouvoir travailler un peu plus facilement et de continuer à avoir un suivi sur l'ensemble de ces dossiers. Quelle a été la réflexion du Chardon-Lorrain au départ ? Ce que chaque commune aurait eu beaucoup de difficultés à mettre en place, et techniquement et financièrement, c'était de réaliser les diagnostics PAP-ERP de leur commune. On a donc donné compétence au Chardon-Lorrain pour ce faire. À partir de là, nous avons lancé un appel d'offres, nous avons retenu un bureau d'études et nous sommes partis avec ce bureau d'études pour faire le diagnostic PAP-ERP de nos 39 communes. Pour celles qui le voudraient la consulter, j'ai apporté les documents de ma propre commune. Donc on a réalisé un annexe qui vous donne tous les textes de loi sur l'accessibilité et les différents bâtiments mairies, l'ensemble de la commune, l'église, car elle fait partie des ERP, et l'accessibilité de la balle. 39 communes à visiter. J'ai été pour ce faire le lien entre la communauté de communes, les communes visitées et le bureau d'études. Ça a permis d'avancer dans l'ensemble de nos visites un peu plus facilement et surtout de mettre en confiance l'ensemble des personnes concernées. Une fois ces 39 dossiers réalisés, ils ont été remis à chaque commune. Et naturellement, si c'est ce travail lourd, notamment financièrement, payé par la communauté de communes, les travaux restent à la charge des communes, bien naturellement. Il était clair que la communauté de communes ne pouvait pas s'engager financièrement à avoir fait ses études de diagnostic PAV-ERP sans avoir un suivi derrière, pour savoir ce que les communes allaient pouvoir continuer à mettre en place, pouvoir réaliser, et notamment avoir le suivi de ce qui se faisait, ce qui nous semblait logique. Et on a souhaité aller un peu plus loin dans nos démarches en créant d'autres possibilités de sensibilisation. Nous allons d'ailleurs bientôt visiter une école, celle du groupement pédagogique des Sémézerais, notamment avec l'encadrement de l'APF, avec M. Béraud, sur lequel nous sensibiliserons les enfants sur un après-midi. Il y aura donc trois classes concernées, un CP, un CM, 62 enfants en tout. Ils auront une heure d'allouée par classe. On leur passera un film sur le handicap. On leur fera un petit circuit en fauteuil roulant pour qu'ils puissent s'adapter dans ce fauteuil. Et on leur proposera des jeux ludiques pour ce faire. C'est un plan d'avance pour aller sur la sensibilisation des enfants. Nous avons souhaité aussi sensibiliser, et nous sommes encore dans la démarche à ce niveau, de sensibiliser les commerçants. Car naturellement, eux devront aussi, tôt ou tard, essayer de respecter la loi. Elle est faite aussi pour eux. Et ils pourront avoir dans ce domaine une aide financière du FISAC, et nous sommes en pleine étude sur ce dossier. Naturellement, pour l'ensemble de ce travail, on n'est pas tout seul. Comme je vous disais tout de suite, on travaille en commun accord et en partenariat avec le Conseil Général, avec l'Association des maires sur lesquels on peut s'appuyer techniquement, avec l'APF, donc, la DDT et un certain nombre d'autres partenariats. Et tous ensemble, on fait pour que demain, on puisse non seulement penser, mais concrétiser l'accessibilité. Il reste encore beaucoup de travail à faire, même si un certain nombre de collègues maires ont déjà bien avancé dans ce dossier. Ils mettent à Paris, par contre, en faisant ces études PAV-ERP, qu'un certain nombre de communes avaient déjà anticipé sur ce dossier, malheureusement pas toujours adroitement. Il y avait le cœur pour le faire, mais elles n'ont pas toujours été respectées dans les termes techniques, les pentes, les dévers. Tout ceci va nous permettre maintenant d'avoir les éléments en main pour pouvoir travailler sur ce dossier. Voilà, peut-être des questions.
Merci bien. Je crois que maintenant on va vous donner la parole et faire répondre des intervenants plutôt sur des questionnements techniques qui sont issus de la salle. Moi, à titre personnel, mais en tant que président de la communauté de communes, je reconnais que l'avance prise par le chardon lorrain est remarquable.
Je pense que l'initiative prise à l'échelle intercommunale est remarquable, donc je ne sais pas si vous êtes prêts.
aussi interrogatifs que moi sur les coûts de ces études, mais c'est vrai que c'est pas neuf sur les soutiens financiers que vous avez pu avoir, mais je crois que créer une dynamique à l'échelle de vos nombreuses communes, c'est quand même quelque chose de très performant. Moi, je retiens aussi la démarche entreprise auprès des enfants. Je crois qu'on a souvent besoin d'une génération pour faire passer des messages. Si vous y arrivez avec ça, c'est tant mieux. Je crois que dans des domaines comme les ordures ménagères ou le tri, on est bien conscient que c'est par les enfants qu'on réussira en une ou deux générations à faire améliorer considérablement notre système. Voilà. Donc la parole est à la salle. Et maintenant, donc il y a toute une série, Marie, d'intervenants qui pourront répondre à toutes vos questions. Ou tu les fais intervenir tout de suite.
Donc, si il y a des questions, je prends la question. Sinon, on propose à Virginie Vattier du CAE de commencer peut-être sur l'appui du CAE. Monsieur, excusez-moi.
Donc, je voulais livrer deux témoignages. Le premier, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. J'avais monté un projet, et Mme Pilot en a eu connaissance, pour la création d'une masse sur mon territoire. J'avais le terrain, j'avais l'association, c'était Gilles et Thierry, j'avais réussi à mobiliser mon conseil municipal, quand il aurait été facile, j'ai mobilisé la population, puisqu'on a fait deux réunions, l'une avec M. Toupens, le directeur de l'époque, l'autre avec M. Bégor, qui était le président, et résultat, je n'ai pas pu l'amener à terme, parce que On a voulu privilégier la commune de Commercy, qui, elle, a sa masse. Et nous, on est restés totalement déçus et un peu démobilisés, je l'avoue. Ça, c'est le point négatif. Le point positif, c'est de pouvoir achever ce que vient de dire Mme Pilot. Au niveau du centre de gestion et avec l'aide du FIPH, on incite les communes à embaucher du personnel handicapé. Je pense qu'on a déjà fait beaucoup de progrès. Et de ce côté-là, il faut que tout le monde soit conscient que handicapé, il rend les mêmes services qu'une personne normale dans une mairie. Donc, je vous encourage à embaucher les handicapés. Surtout les grosses communes qui, si elles ne le font pas, ont une pénalité, comme elles doivent le savoir, j'imagine. Merci.
François Forain, maire de Lucet, président du centre de gestion, pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
Il faut que les mairies soient accessibles aussi.
Vous avez peut-être d'autres questions avant ma brève intervention. Donc, je suis Virginie Vartier, architecte au CAE de Meurthe-et-Moselle, et je suis aussi conseillère technique pour la MDPH 54, en appui avec les ergothérapeutes. Donc voilà, le CAE de Meurthe-et-Moselle, j'espère que vous le connaissez tous. Donc, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Donc nous sommes plusieurs architectes conseillers, donc nous partageons le territoire de Meurthe-et-Moselle. Et donc j'ai une spécificité par rapport à mes collègues sur l'accessibilité et le conseil auprès des collectivités. Et donc je me déplace pour vous aider dans vos mises d'accessibilité d'établissements recevant du public, mais aussi sur les espaces publics, parce qu'on l'a noté aussi dans les interventions qui ont été faites jusque-là, c'est que les établissements, s'ils sont mis en accessibilité, il ne faut pas oublier non plus les espaces publics pour permettre le cheminement aux personnes pour se rendre d'un point à un autre. Donc les communes font appel à moi généralement et je me déplace dans les 15 jours suite à votre appel pour pouvoir vous aider et aboutir dans votre projet. Alors ça peut partir d'un conseil relativement simple avec un état des lieux et une solution assez rapide à mettre en place jusqu'à des conseils un peu plus approfondis avec un accompagnement pour vos collectivités, pour le recrutement d'une maîtrise d'œuvre adéquate pour pouvoir résoudre votre problème dans le cadre d'une réhabilitation notamment, où là on a toujours des solutions techniques un peu plus fines à apporter. Et puis pour reprendre un peu aussi les propos de Mme Pilot concernant les entreprises qui ont aussi quelquefois de la bonne volonté pour mettre en place les projets, les travaux qui leur sont demandés, la CAPEB 54 met en place des sessions de formation pour les entreprises et leur délivre un label qui est le label Handibat. Et donc ces entreprises-là devraient être plus aptes à répondre
à vos problématiques de mise en accessibilité. Dans tous les cas, il est vrai que ben oui, pour un élu, il faut être vigilant sur le projet du début jusqu'à la fin, jusqu'au chantier, notamment pour les espaces publics, pour voir si la bordure n'est pas trop saillante, n'est pas trop haute, pour pouvoir permettre un franchissement aisé par les personnes qui sont en fauteuil. Y a une responsabilité tout du long, jusqu'au chantier, où des fois, ben, une petite pause qui se fait un peu rapidement peut permettre de faire un peu échouer la mise en place du projet définitif et son accessibilité totale. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ce que je pourrais vous apporter.
J'en ai une, moi.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Pellet, Mme Pilot, parce que je suis concernée dans le cadre du privé par un handicap physique et mental. Et on a souvent eu l'occasion de se retrouver bloqué dans des hôtels. On visite les chambres. Alors, ça, c'est un exemple, je pourrais en donner bien d'autres. Et à chaque fois, on est confronté à. On nous a donné des. Le gérant de l'hôtel nous dit voilà, nous avons une chambre pour handicapés. On leur dit, mais attendez, mais c'est pas possible, on ne peut pas venir avec un fauteuil et on ne peut pas faire la douche ou. Enfin, on avait une baignoire, enfin, du style comme ça. Et à chaque fois, on a la réponse que les acteurs qui ont prévu ces normes ne sont pas. Ça peut être des gens comme vous de l'architecture, ça peut être aussi des gens dans le cadre social, des gens bien pensants, hein, qui ne sont pas porteurs d'handicap. Et on a toujours l'impression que c'est eux qui décident à la place des handicapés, ou à la place des familles d'handicapés. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de relation de communication entre les gens qui sont concernés par handicap et ceux qui prennent des décisions. Par exemple, du style de la chambre, on a une baignoire, ce qui est absolument aberrant, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de rampe, il n'y a rien. On a vu cela, on en a vu d'autres, je pourrais citer deux ou trois exemples. Je ne peux pas tous les citer, bien sûr, mais voilà, c'est pareil pour les maisons pour les maisons qui reçoivent des personnes handicapées. Je repense à un monsieur qui a son fils en AS. On a des soucis mais énormes de communication avec les parents, de confiance, de par rapport aussi aux soins. Ils font ce qu'ils peuvent, mais on a l'impression que parfois ils réfléchissent pas à l'handicap, quoi. Et je pense que ça, on pourrait faire d'énormes progrès, on pourrait faire une avancée terrible si déjà les gens qui sont concernés peuvent s'exprimer. Deux petites réponses.
Alors, pour resituer mes propos, je ne suis pas représentante de l'ordre des architectes ni de la profession des architectes, puisque, accessoirement, pour l'ordre. Alors on va le dire, les architectes en CAE n'étaient pas considérés comme des exerçants de la profession jusqu'à un certain temps. Voilà, ça s'est fait. Et puis, en d'autres mots, Madame Pilot l'a évoqué un moment sur l'école d'architecture et sur les formations qui sont faites auprès des étudiants. Alors moi, j'ai été formée à l'école d'architecture de Nancy pour la promo 1993. Et donc, il est vrai que je n'ai jamais reçu de cours concernant l'accessibilité. Bien sûr, j'ai une formation après mon diplôme. Donc, je pense qu'actuellement, je pense que l'école d'architecture, les écoles d'architecture globales, hein, on ne va pas stigmatiser celle de Nancy précisément, mettent en place des cours supplémentaires pour la mise en accessibilité des locaux ou dans la formation de conception de logement. Ces données-là sont données, peut-être très peu ou trop peu. Hein, ça va être amené sûrement, et je l'espère, à évoluer. Donc voilà, c'est vrai qu'on retrouve, alors on ne devrait pas le trouver dans des établissements neufs, puisque au premier mètre carré, on devrait l'appliquer dans la construction neuve, dans tous les cas, même si je sais que je constate aussi, en étant conseillère auprès des communes, des manquements, dans tous les cas.
Des investissements qui sont lourds, qui sont imposés et qui ne sont pas adaptés.
Dans la réhabilitation, c'est vrai que les investissements peuvent être conséquents à certains moments. C'est un débat peut-être un petit peu plus large. Voilà.
Merci. Monsieur Bonnet.
Je le tiens. Vous le tenez, d'accord ?
Tiens.
Tiens. Oui, vous avez raison, madame, de dire que très souvent les hôtels ne sont pas adaptés. Curieusement, on constate que...
Ils investissent, on leur oblige à investir.
Oui, et c'est pas toujours très heureux. Et ça, c'est pour moi un point d'interrogation qui demeure. Je ne sais pas s'il y a une solution, la vérité, à ça. Parce que les handicaps sont extrêmement variés, extrêmement divers. Et que pour trouver un dénominateur commun qui aille bien à tout le monde, c'est quasiment impossible. Cela étant, il y a des énormes erreurs. Énormes erreurs. J'en ai des dizaines à l'esprit, parce que j'ai quand même beaucoup voyagé. Et on constate qu'effectivement, il faut quelquefois très peu de l'autre pour faire ce qui est fait. Alors, je suis certain même, qu'aujourd'hui, il existe un module obligatoire pour les formations d'architectes. Mais M. Béraud me disait, il me faisait comprendre.
Il n'est pas dans toutes les écoles.
Il n'est pas dans toutes les écoles.
Loin de là.
Et ça, c'est comme ça, quand même absolument anormal. Absolument anormal. Moi, j'avais une toute petite question, vraiment minuscule, à côté de celle qui vient d'être posée, et qui est la suivante. Pouvez-vous m'expliquer, madame, les raisons pour lesquelles, en France, il y a passage de bateau, vous savez, les trottoirs abaissés, il y a toujours un petit dénivelé, qui est quelquefois pas si petit que ça, et qui en tout cas existe toujours, alors que dans d'autres pays, il y a une planéité totale de la chaussée sur le trottoir. Pourquoi à Barcelone, à Londres, enfin à Berlin, je dirais plusieurs villes de ce genre que je connais, pourquoi maintenant nous en France ce petit dénivelé qui est extrêmement, passez-moi l'expression, emmerdant. Pourquoi ?
Je pense qu'on va laisser la parole à M.
Menoux. Ah, oui. Il peut nous le dire
sur le roi. C'est son domaine de compétence.
Bonsoir à tous, Patrick Menoux, donc de la DDT. Meurthe-et-Moselle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien DDEA qui remonte à DDE, puis les ponts et chaussées, puis je ne sais. Aujourd'hui, c'est la DDT. Voilà, donc au niveau réglementaire, je vais répondre tout de suite à votre question. Effectivement, pour le handicap physique, notamment pour les personnes en fauteuil, cette petite bordure, avec un maximum de ressaut de 2 cm, je ne sais pas où il faut que je parle pour...
C'était bien, là ?
Oui.
Parce
que j'ai tendance à parler fort, alors je ne vais pas vous casser les oreilles non plus. Si elle est pénalisante pour le fauteuil... c'est quelque chose qui est demandé par les malvoyants et non-voyants. Parce que ça leur permet de sentir avec la canne les dénivelés. Quand on parle de cheminement, on parle de contraste visuel et tactile. Et effectivement, on n'arrive pas... la grosse problématique, c'est de faire pour tout le monde de trouver la bonne taille. Madame parlait, et je comprends complètement ce qu'elle voulait dire, en fonction du handicap, on a fixé, je n'ose pas dire arbitrairement, parce que les réglementations et la normalisation quant aux dimensions ont été, je ne participais pas, mais ont dû être longuement débattues sur ce qu'il était nécessaire et sur ce qu'on pouvait faire. On dit par exemple qu'un fauteuil, à titre d'exemple, fait 75 par 125. Il n'en existe aucun qui fasse 75 par 125. Il y en a qui dépassent. On réserve des espaces d'usage de jusque 130, jusque 1m30. Je connais des fauteuils, je connais des personnes qui vont jusque 1m40, 1m45, 1m50. Le problème, c'est qu'il y a un moment dans la réglementation, il a bien fallu, j'ose pas dire trancher, mais retenir une dimension.
Enfin, pour rebondir sur votre observation, que j'accepte volontiers, mais vérité en deçà des Pyrénées, erreur en delà, pourquoi à Barcelone, les personnes malvoyantes n'ont pas le même problème ?
Je pense que si, mais alors après, il faudrait reculer un petit peu plus. J'ai pas connu le temps où il n'y avait pas de circulation automobile. Donc on suppose que les rues n'étaient même pas gravillonnées. Il n'y avait que des trous, de la terre, des choses comme ça. Après, on est passé à des voies, j'exagère, mais 10 mètres de large, 20 cm de trottoir. C'était une norme d'il y a 40-50 ans. On était contents, on avait sa nationale qui traversait, les voitures pouvaient passer à 120 à l'heure, c'était parfait. Et on était resté sur l'idée de bordure. Petit à petit, on refait la place aux piétons. Qui dit piéton, on fait la place à tous. C'est pas aux piétons, c'est à tous. En diminuant les voies. Jusqu'ici, elles étaient bordurées. J'ai fait partie de ceux, j'en suis pas forcément fier, qui ont relevé des bordures en traverse, des bordures granit, je les ai remis à 25 cm à la demande des maires, mais j'étais complice puisque je l'ai fait. Sinon, quand des choses que je ne souhaitais pas faire, je faisais un courrier à monsieur le maire en lui disant, compte tenu de ceci, compte tenu de cela, je ne prends pas la responsabilité de répondre à votre demande. Des fois, ça marchait. Mais là, j'ai été complice. Par manque de connaissances, par manque de prise de conscience de la problématique. On arrive seulement maintenant à faire des plateaux plats, complètement plats. Le but étant que la circulation automobile ne se sente plus sur des rails. Si vous voulez, c'est les espaces partagés. Je ne partage pas tout d'ailleurs, mais ça se fait comme ça. C'est de manière à ne pas marquer des itinéraires pour les véhicules. Effectivement, dans ce cas-là, on arrive à supprimer cette aspérité de maximum, je le répète, 2 cm. Seulement, il se trouve que, à nouveau, lors de la pause, ce qui devait faire 2 cm fait facilement 3,5, 4. Parce que les gens qui sont chargés de la pause, moitié par ignorance, moitié parce qu'ils ne sont pas confrontés, pensent que c'est pas 1 cm près. Or, 2 cm, c'est déjà pénible, mais ça se franchit. 3,5 cm, ça se franchit plus dans certains cas.
Ah, il faut aller de travers. Non, c'est extrêmement pénible, je veux dire. Et puis, il n'y a pas que moi qui, bien évidemment, dit cela. Hein, je me fais, ce faisant, le porte-parole de beaucoup. Et on comprend pas trop les raisons qui font que, encore une fois, ce qui se fait ailleurs ne peut pas se faire en France. Et toutes les villes françaises, c'est comme ça.
On a abordé un petit peu le pas.
Ah, c'est un petit point de détail, mais...
C'est la personne qui parle pour le pas. Excusez-moi,
Cassandra. Bonsoir à tous. Moi, je vous présente Cassandra Lelarge, volontaire au service civique au sein de l'Association des maires de Meurthe-et-Moselle pour réaliser la mission PAV. Donc, concrètement, le PAV... Pour rappel, c'est le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. À travers ces quelques diapos, je vais vous présenter le PAV, les personnes qui sont concernées par l'accessibilité, quelques rappels réglementaires simples et fréquents, la présentation de la mission PAV, l'aide de l'association, c'est-à-dire mon rôle, le guide d'élaboration du PAV, les différentes étapes par lesquelles on passe pour réaliser ce PAV, quelques exemples de cas concrets que j'ai pu rencontrer lors de mes déplacements en commune et enfin un tableau de statistiques pour vous donner une idée un peu des communes qui possèdent le PAV, etc. Donc le PAV, c'est un document que doit posséder la commune qui aurait dû être réalisé en 2009 et qui permet de prendre en compte les difficultés d'accessibilité de la voirie et de l'accès aux ERP pour les personnes en situation de handicap. Alors j'insiste sur accès aux ERP parce qu'il faut bien différencier les ERP, qui sont les établissements recevant du public, qui concernent la loi de 2015. C'est l'accessibilité à l'intérieur de ces bâtiments, tandis que le PAV, qui est la loi de 2009, c'est l'accessibilité de la voirie, c'est la chaîne de déplacement, en fait le cheminement qui permet de relier ces différents établissements. Donc les personnes concernées... Ce sont les personnes tout d'abord en situation de handicap à proprement dit, mentaux, psychiques, cognitifs, physiques, etc. Mais ce sont également les personnes à mobilité réduite, donc les PMR, comme les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes transportant des bagages lourds, avec un enfant, une poussette, on est tous concernés par, par l'accessibilité. Quelques rappels réglementaires rapides, comme la hauteur d'un trottoir, comme on disait juste avant, qui ne doit pas dépasser 2 cm. La largeur d'un trottoir d'1m40, parfois ramenée à 1m20, pour favoriser les déplacements. Les stationnements doivent représenter environ 2% de places handicapées. Alors ces 2%, c'est par rapport à la totalité des parkings sur les communes. Ensuite, en ce qui concerne les passages piétons, ils doivent comporter des bandes podotactiles à chaque extrémité pour les personnes malvoyantes. Et enfin, les escaliers qui doivent comporter une main courante de chaque côté, dépassant la première et la dernière marche des escaliers. Alors, la présentation de la mission. Donc, l'Association des maires a été agréée au service civique depuis janvier 2011. Des volontaires sont sélectionnés. Donc, ces personnes-là ne sont pas obligatoirement compétentes dans ce domaine. Par exemple, avant de commencer cette mission, je n'avais jamais travaillé dans ce domaine. Donc, une formation nous est donnée. Ma mission, donc, c'est sensibilisation et aide à la rédaction du PAV. Et cette mission est ouverte à toutes les communes qui sont intéressées. Alors, pour réaliser le PAV, il y a différentes étapes. La première, c'est l'entretien avec le maire et l'état des lieux de la commune. Donc, je me déplace sur la commune pour rencontrer le maire, discuter des différentes modalités de la mission, échanger des questions de part et d'autre. Ensuite, je me déplace sur la commune accompagnée du maire ou d'un élu afin de réaliser des photos pour faire l'état des lieux, et la présence de l'élu est donc indispensable pour m'expliquer les projets de la commune, les travaux qui ont pu être réalisés ou qui seront réalisés dans le futur pour m'aider ensuite à réaliser le PAV. En seconde étape, il y a le rapport de diagnostic. Alors concrètement, ce qui apparaît dedans, c'est le constat et les propositions avec les photos que j'ai faites lors de mes déplacements. Donc les propositions, elles sont diverses et ça reste simple et peu coûteux. Le but, c'est vraiment aussi, rien n'est catégorique dans ce que je propose, c'est vraiment une discussion, un échange avec le maire. Des propositions peuvent venir de la part de la commune. Et ensuite, le rapport donc, est retravaillé en fonction des demandes, des modifications, etc. Lorsqu'il est validé, on passe donc à la troisième étape, qui est le rapport de diagnostic définitif, avec un format définitif, envoyé par courrier, etc. Ensuite, la quatrième étape qui est validation et échéance, c'est relève de la compétence de la commune, c'est-à-dire que la commune réalise une demande de devis du coût des travaux ainsi qu'une planification de ses travaux. Donc, cette étape est essentielle pour la réalisation du PAV. Ensuite, parce que dans le PAV, ce qui apparaît, c'est le rapport de diagnostic ainsi que les devis. C'est-à-dire qu'il y aura tels travaux à réaliser dans telle rue, par exemple, qui coûtera tant et qui sera prévu, du coup, en telle année. Sans ces devis, aucune planification peut être faite et le PAV n'est donc pas complet. Et enfin, envoi à la DDT. Je vais vous présenter quelques exemples que j'ai pu donc voir dans mes déplacements concernant les rappels que je vous ai fait sur les normes juste avant, donc l'accès à un bâtiment, les escaliers, trottoirs, passages piétons et parking. Comme je vous disais juste avant, rendre une commune accessible n'est pas forcément un projet faramineux, ça reste des solutions simples et peu coûteuses, comme dégager les trottoirs d'obstacles, bacs à fleurs, bancs, etc. Détourner une entrée d'un bâtiment sur une porte plus large qui n'était plus utilisée, comme la sacristie d'une église, signaliser une place réservée aux personnes handicapées. Par exemple, on peut voir là un accès à un bâtiment où une petite marche rend ce bâtiment inaccessible, mais étant donné le revêtement qui est stable et en bon état, il suffirait simplement de niveler cette marche pour rendre la mairie accessible. Un exemple à côté, où la porte d'entrée est de plein pied, le revêtement stable en bon état, une largeur suffisante, là, c'est totalement accessible. Pareil ici, les deux portes d'entrée qui sont de plein pied, accessibles, le revêtement, l'espace qui est suffisant, qui est donc favorable à l'accès aux personnes en situation de handicap. En ce qui concerne les escaliers, ici, on constate qu'il n'y a pas de main courante de part et d'autre. Donc là, il suffirait simplement d'ajouter les mains courantes. Pour cette deuxième photo, on voit des mers courantes qui sont présentes de part et d'autre. En revanche, celles-ci ne sont pas aux normes, au sens où elles ne dépassent pas la première ni la dernière marche. De plus, lorsqu'un escalier dépasse 4,20 m, une main courante est intermédiaire et recommandée ici. Voilà, ici un exemple de cas où tout est accessible, des mains courantes pour les pentes ainsi que pour les escaliers, et que celles-ci qui dépassent la première et dernière marche et les portes d'entrée qui sont accessibles. Pour les trottoirs, on voit qu'ici la largeur est favorable, il suffirait simplement de refaire le revêtement pour pouvoir permettre un accès aux piétons. Voilà, comme ici, on voit deux trottoirs qui sont parfaitement accessibles par rapport au revêtement, mais simplement le pot de fleurs placé en plein milieu pourrait être déplacé sur le trottoir d'en face et ainsi rendre ce trottoir accessible. Voilà, exactement. Là, le trottoir qui sont accessibles par le revêtement, la largeur. Et ici, on voit la voiture stationnée sur le trottoir. Donc, pareil, un rappel au code de la route pour éviter d'encombrer les trottoirs. En ce qui concerne les passages piétons, on voit que sur ces deux photos, il manque les bandes podotactiles de part et d'autre des passages piétons. Sur cette photo, on voit la hauteur des trottoirs qui est beaucoup trop importante. Donc, une personne à mobilité réduite ne pourrait pas y accéder. Et ici, encore une fois, la voiture qui est stationnée sur le trottoir et qui, du coup, empêche l'accès au passage piéton. Et voilà des exemples de passages piétons qui respectent les normes avec les bandes podotactiles de part et d'autre, les abaissements du trottoir, un contraste visuel et un revêtement stable et en bon état. Enfin, les parkings. Donc là, on voit une place de stationnement réservée aux personnes handicapées avec le marquage au sol, qui, je le rappelle, est obligatoire. L'implantation du panneau de signalisation, lui, n'est pas obligatoire. En revanche, il est fortement conseillé, parce que quand une personne arrive avec son véhicule sur un parking, c'est quand même la première chose qui est visible, c'est le panneau. Donc, il est souvent conseillé d'être implanté. Sur ce parking, la largeur est suffisante pour stationner. En revanche, aucune place n'est matérialisée. Donc là, ce qui est préconisé dans le rapport, c'est de matérialiser par un marquage au sol les différentes places de stationnement et créer une place de stationnement réservée aux personnes handicapées, notamment proche de l'entrée de la mairie. Et donc, pour finir, le tableau de statistiques, on voit que 594 communes en Meurthe-et-Moselle, avec 60 PAV adoptés et 322 PAV qui sont en cours, selon les chiffres de 2012, et une trentaine de communes qui ont fait appel à l'association. Et je vous remercie.
Merci. Vous intervenez jusqu'à quelle taille de commune?
Il n'y a pas de taille.
Voilà, c'est les communes qui sont intéressées.
Est-ce que vous arriverez... J'ai bien entendu que vous avez dit du travail jusqu'au moins au mois de juin, dans toutes les communes qui vont vous solliciter. Je pense que vous n'arriverez pas à faire tout. Donc c'est pour ça que je peux poser la question sur la taille des communes.
À faire tout d'ici le mois de juin, vous voulez me dire?
Et dans les années à venir.
Alors,
répondre aux demandes, donc la charte de travail jusqu'au mois de juin.
Alors, les communes qui font appel à l'association actuellement sont mises sur la liste d'attente. Et après, ça ne relève plus de ma compétence de savoir comment elles sont prises. Mais... une fois que je suis partie, je vais juste laisser la parole à mon collègue.
Pas les moyens de vous aider. Mais là, on peut dire que nous ne faisons payer que le déplacement.
Voilà, tout à fait.
Nous ne faisons payer que le déplacement. Donc c'est vrai que c'est essentiellement pour aider les petites communes, quoi. Hein. Je pense pas que
ça s'appelle les petites communes. C'est quoi les petites communes?
C'est celles que j'ai
jusqu'à combien?
Ah, il n'y a pas de...
Bonsoir, Nicolas Manchetto, du service juridique, tuteur de Cassandra dans le cadre de cette mission PAV. Donc, comme je le disais clairement, il y a effectivement pas mal de communes qui nous ont sollicité dernièrement. Elle a battu un travail énorme sur les communes intéressées. Il y en a pas mal qui sont sur liste d'attente à l'heure actuelle. Alors, c'est pas une question de critères de population, c'est-à-dire qu'on s'est lancé sur des communes assez importantes, je pense à Écoux notamment. Donc, c'est quand même 3 000 habitants. malheureusement, ces communes-là, derrière, n'ont pas forcément donné suite, entre guillemets. Donc on perd du temps sur des grosses communes, tandis que sur des communes sans être péjoratif plus rurales, on peut aller très vite. Le seul souci, c'est que comme il y a une liste d'attente, il faut qu'on prenne le temps aussi de vous prendre en compte, tout simplement. Donc si vraiment vous êtes intéressé par la démarche, moi ce que je vous invite à faire, c'est à prendre contact, soit directement avec Cassandra, soit avec le service juridique, pour vous inscrire sur cette liste d'attente. Après, il y a les bureaux d'études également qui peuvent le faire. C'est sûr que c'est un coût, comme disait Mme Falk, que nous, on ne facture que le déplacement. Après, il est vrai que la prestation n'est pas celle d'un bureau d'études non plus, il ne faut pas se mentir. Et à partir de là, on peut déjà faire des choses. On peut également, si la liste d'attente continue à grandir, comme c'est le cas actuellement, vous proposer des exemples de rapports de diagnostic qui ont été faits sur d'autres communes, peut-être similaires à la vôtre, et des PAV qui ont pu être également faits sur ces communes. Ça peut au moins vous donner des documents pour vous aider à faire les choses. C'est plus un investissement de temps que vraiment de compétences. Comme le disait Cassandra, on peut apprendre très vite sur le sujet. Voilà.
Il faut faire un groupement de revues d'après.
Pascal, maire de Metz.
Non ?
Oui, Pascal Jean-Jean, maire de Metz, référent territorial d'accessibilité au niveau de la communauté de communes du Salon. Donc nous, au niveau de la communauté de Saint-Nom, on a donc fait les diagnostics ERP et PAV sur l'ensemble des communes, 29 communes de la communauté de communes. Aujourd'hui, donc, on est au même niveau que notre collègue Charles Laurent. Notre souci aujourd'hui, mon inquiétude, alors j'attends parce que l'intervenant n'est encore pas venu, c'est sur les conséquences juridiques. Si on n'est pas aux normes ERP, alors au PAV, c'est pas pareil, puisque le PAV, on le fait au fur et à mesure de lorsqu'on travaille sur la voirie. Mais par contre, moi, l'inquiétude que j'ai, et c'est surtout, et ça c'est un faute de moyens financiers, c'est pour la mise aux normes des ERP, l'accessibilité des mairies et des édifices publics de nos communes, c'est pour le financement. Lorsqu'on a des opérations très lourdes, et moi dans ma commune, j'ai une opération très très lourde, au niveau de la mairie, puisque j'ai une mairie qui est jolie, mais qui date de 1920, avec 30 marches d'escalier pour pouvoir accéder à la mairie. Je n'ai pas de niveau de rez-de-chaussée. Donc ça fait un investissement lourd, on le prend en compte. Il y a une volonté politique de le faire, et donc d'autres collègues dans la communauté de communes sont sur le même niveau que nous, mais il est clair qu'aujourd'hui, on ne pourra pas tenir la date du 1er janvier 2015. Pas faute parce qu'on n'a pas la volonté, mais faute parce que financièrement, lorsqu'on avance des chiffres qui sont de l'ordre de 250-300 000 euros pour une rénovation, pour en accessibilité, il est clair qu'on est obligé de le faire par plusieurs tranches. Et aujourd'hui, les financements que j'ai revus là, aujourd'hui, c'est le financement qu'on a sollicité et on ne peut pas faire mieux. Donc effectivement, il y a une volonté de faire et d'avoir, et je pense qu'à ce niveau-là, et je parle sous contrôle de M. Venoux, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois pour mettre en place ce que l'on a fait sur le salon. Mais aujourd'hui, ma question, c'est de dire, on a la volonté politique de faire, mais il nous faudra du temps, et on ne pourra pas, pour certaines communes, faute de moyens financiers, être aux normes au 1er janvier 2015. Et ma question, c'est de savoir, au niveau juridique, qu'est-ce que les communes vont pouvoir en subir, c'est parce qu'ils ne seront pas aux normes au 1er
janvier
2015. L'État, c'est Menou. Monsieur Menou, pour les conséquences juridiques. Et puis, Monsieur Perrault, peut-être sur les aides. Je n'ai pas de réponse concernant les conséquences juridiques. A priori, tout à l'heure, j'entendais parler de la loi de 2015. Moi, je voudrais quand même repartir de la loi de 1975 et de son fameux article 49 qui disait que tous les ERP sont accessibles. Votre mairie de 1920... Non, je plaisante, mais je veux dire par là, on est en 2013 et on commence à avoir peur pour 2015. Je ne pense pas qu'on coupe des têtes. Ça ne sera pas comme ça. Pour autant, ça fait quand même longtemps qu'on parle de cette mise en accessibilité. J'apprécie tous les élus qui ont déjà fait beaucoup de choses dans leur collectivité. Et je voudrais aussi faire un petit encart sur le PAVE. dont j'ai eu la chance et l'honneur de venir présenter, que ce soit dans cette salle ou que ce soit sur le PIO. Et je voudrais rappeler quand même que pour une petite commune, les habitants peuvent en faire une grande partie de ce PAVE. Et comment, si le PAVE est obligatoire, pour autant, il n'est pas défini sur toute la collectivité. Il doit représenter, c'est la collectivité qui définit le périmètre. Plus il en prend, mieux c'est, mais il n'est pas question de vouloir mettre dans un périmètre de bave la maison isolée à 300 mètres. On se doute bien qu'à l'échelle d'une commune de 100 à 300 habitants, on ne va pas faire une circulation spécifique accessible, si peu encore qu'elle soit en pente, pour relier une maison à 300 mètres. Et donc, toute la définition du PAV peut se centrer sur les zones les plus fréquentées, qui rassemblent la majorité des ERP pour les communes de 2 ou 200 à 600 habitants. Il n'y a pas de limite. Je veux dire, souvent, ça se limite à 3 ou 4 établissements. Il va y avoir la mairie ou la mairie-école, l'église, éventuellement l'ancien presbytère reconverti en maison des associations, et puis ça va guère au-delà. Et puis ça peut se résumer à la commune peut avoir 5 ou 6 rues, dont 3 rues principales. Ça, c'est des choses, voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, chacun d'entre nous est à même de le constater. Là où on pourrait être limite au niveau compétences, c'est quand il va s'agir de chiffrer. Effectivement, le PAV comporte un chiffrage des mises en accessibilité. Là, on peut se faire aider si on n'en a pas les compétences. De plus en plus de mairies sont en communauté de communes et peuvent disposer de services techniques, même réduits, mais qui peuvent donner une enveloppe sur une mise en accessibilité. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire intervenir un service extérieur. L'aide que vous propose l'association des maires en ce cas est vraiment formidable, parce que c'est quand même quelque chose qu'ils ont mis en route, ça fait bien 3-4 ans maintenant, qu'ils ont maintenu, ils ont mis du monde qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Ils sont toujours prêts à vous donner quelques exemples de PAV recommandable, et vous pouvez vous calquer dessus. C'est vraiment Et moi, ce que j'y trouve aussi comme avantage, c'est qu'un PAV fait par ses habitants, on peut y croire. Un PAV fait par un bureau d'études extérieur, permettez-moi d'avoir des doutes, parce que ça fait un rapport de plus qu'on lit. Si peu qu'on regarde la dernière page où il est marqué le chiffre, on prend peur, on le referme, et surtout, on ne veut pas le retrouver. J'ai exemple d'une commune, j'espère qu'elle n'est pas ici, et puis je ne la citerai pas, de toute façon je ne me souviens plus, vous voyez. Mais je me souviens quand même que c'était une commune de 80 habitants et qui me met dans son courrier, comment voulez-vous qu'avec 80 habitants, je paye les travaux de 800 000 euros. C'est sûr que quand on ne veut pas faire ça, quand on ne veut pas faire les mises en accessibilité, eh ben on dit qu'on n'est pas beaucoup d'habitants et qu'il y a un chiffre exorbitant. La mise en accessibilité, ce n'est pas forcément dépenser de l'argent. Mademoiselle ou madame a présenté un superbe exemple où des gens, où une commune avait investi sur un magnifique trottoir, un peu droit je trouve, mais un peu monotone, mais on avait quand même réussi à mettre un bac à fleurs. C'est quand même le parfait exemple de quelqu'un qui a mis ça, qui n'est absolument pas concerné par la problématique.
Il a gagné le concours des maisons fleuries au conseil.
J'ai sûrement pas répondu à la question initiale, mais c'était quand même un petit peu le but, hein, de détourner l'attention.
Il y a une chose sur laquelle aussi il faudrait peut-être penser, et c'est vous, monsieur, qui m'y faites penser, c'est aussi les architectes des bâtiments de France, qui, quand vous rénovez un bâtiment, sont très exigeants aussi quant à ça, et ça peut aussi quelquefois freiner un peu les projets, quoi.
Alors, effectivement, alors, dans ce cas-là, quand vous êtes concerné par un problème avec les bâtiments de France, n'hésitez pas à monter une réunion, et je viendrai, moi.
Très bien.
Je ne gagne pas à tous les coups, mais j'ai des pas mauvais résultats.
Très bien, merci.
Mais je ne gagne pas à tous les coups. Pas pour autant, mais je veux dire, il y a certains bâtiments, je fais partie de ceux aussi qui disent bon, il faut, on ne peut pas les casser, quoi. Et on peut toujours essayer de chercher une solution palliative de manière à ce qu'on puisse y accéder. Parce que moi, je suis désolé, des bâtiments pour faire joli, on en a des milliers, c'est bien, mais on a aussi besoin de bâtiments dont on sert. On fait une société pour nous tous. Alors, j'insiste sur le tous. Mais quelques bâtiments dans lesquels on ne peut pas aller, c'est très bien. Il y a beaucoup de bâtiments. Si on souhaite les utiliser, si on souhaite les offrir au public, eh ben, rendons-les accessibles. C'est peut-être ainsi l'insistance de tous, notamment de ceux qui ont les plus hautes responsabilités, de faire en sorte d'essayer de remettre une couche vis-à-vis de ces organismes pour essayer d'être un petit peu plus compréhensif. Mais on arrive des fois à ne pas mauvais résultats.
Oui, il y a des évolutions quand même, des mentalités sur la question, de la part des architectes.
Alors, concernant les architectes...
Des monuments de France.
Oui, mais je voulais aussi rebondir sur l'école d'architecture. Je suis de ceux qui pestent aussi, parce que j'ai travaillé... Maintenant, je suis revenu place des Ducs de Bar, j'en reparlerai tout à l'heure. J'ai été à la cité administrative, donc j'étais à environ 200 mètres de l'école d'architecture. Ça fait maintenant 6 ou 7 ans que je fais ce métier-là. J'y ai mis les pieds pour d'autres raisons. J'y ai mis les pieds quand j'ai fait les journées territoriales d'accessibilité. Et autrement, je n'ai jamais mis les pieds. Et des fois, je suis désagréable avec les jeunes architectes qui arrivent et je leur dis « Mais qu'est-ce que vous avez foutu en cours ?» Alors, on me dit « Quel cours ?» Alors, l'école d'architecture fait partie des établissements dont ils doivent obligatoirement dispenser un enseignement lié à l'accessibilité. Eux, ils n'ont pas le choix. Et puis, c'est quand même la moindre des choses.
Si c'est pas une ville France, pour ça.
Merci, Patrick. Enfin, sur les conséquences un peu juridiques au niveau du médiateur des droits,
Merci. Jean-Marie Ecoum, je suis délégué du défenseur des droits en Meurthe-et-Moselle. Le défenseur des droits, eh bien, c'est pas une association, je pense que vous le savez. C'est une institution constitutionnelle qui regroupe maintenant l'ex-HALD, lutte contre les discriminations, le médiateur de la République, le défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Ça, c'est un peu marginal, c'est les relations entre les particuliers et les services d'autorité, que peuvent être les services de police, de gendarmerie, etc., dans leur déontologie. Dans le problème qui nous intéresse ce soir, le défenseur des droits est concerné dans trois domaines de compétences, notamment, principalement d'ailleurs, le domaine de discrimination, mais également dans le domaine de la médiation, ex-médiateur de la République, c'est-à-dire les relations entre les particuliers et les administrations, et puis, Madame Pilot l'a évoqué tout à l'heure, la dimension défenseur des enfants. Comment ça se passe pour nous? Et généralement, nous sommes saisis par un particulier, un réclame. C'est-à-dire que le défenseur des droits, globalement, ne se place pas forcément en amont d'un problème, mais certainement en aval, parce que quelqu'un vient lui dire « Voilà la situation, et je réclame contre cette situation parce que j'ai le sentiment d'être discriminé, parce que j'ai signalé mon problème au maire de ma commune et il m'a envoyé promener ou il ne m'a même pas répondu, ou dans le domaine des enfants, bien plus généralement, par des parents qui viennent dire voilà le problème que l'on rencontre au niveau de l'école, de l'accompagnement, de l'accessibilité au sens matériel, mais également au sens environnemental. Et à partir de là, la technique d'intervention du défenseur des droits, les principes d'intervention sont d'abord, premièrement, de chercher à comprendre, donc de vérifier par une enquête plus ou moins rapide, plus ou moins approfondie, mais généralement sérieuse quand même, si la situation qu'on lui a présentée est exacte et à quoi correspond-elle en termes de défaillance, en termes de législation, etc. Vérifions. La deuxième étape de cette démarche, c'est de rechercher d'abord, et ça devrait vous rassurer, de rechercher d'abord de la médiation. Voyons voir ce problème précis, ou peut-être élargi, si c'est un problème de passage pour piéton, par exemple, comment ça se passe dans votre commune, etc. Discutons avec l'autorité
et évaluons quelles sont les possibilités, quelle est la faisabilité. Mais ça, vous le savez sûrement, parce que là, dans la plupart des cas, le particulier vous a déjà sollicité sur le problème. Et souvent, et même très souvent, et d'ailleurs heureusement, parce que les interlocuteurs sont intelligents de tous les côtés, on arrive à trouver de bonnes solutions dans ce domaine de la médiation. Des solutions qui ne sont pas forcément onéreuses. Des solutions telles que celles qui sont proposées par madame dans le BAP. Et puis, en cas extrême, parce qu'on a vérifié que la faisabilité, elle était accessible, mais qu'en face, on a une autorité administrative qui est calée sur son refus pour des raisons X ou Y. À chaque fois, le cas peut être différent. Alors, à ce moment-là, et en dernier lieu, le défenseur des droits agitera la dimension sanction. Alors, sanction à travers le tribunal administratif, c'est ce qui vous concerne le plus fréquemment, sanction possible également au niveau du tribunal pénal, parce que vous pouvez être l'objet d'une prise à partie individuelle, notamment dans la dimension discrimination. Pourquoi ce blocage ? Voilà comment nous, défenseurs des droits, pouvons être concernés, de quelle façon, quelle est la méthode que nous mettons en place. Je pense que nulle part on envisage une intervention qui viendrait constater des défaillances et dire à partir de ce constat, vous allez être pénalisé. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est une démarche lente, une démarche progressive, une démarche qui prend en compte tous les paramètres, les paramètres financiers, quelles sont vos possibilités par rapport à ceci ou cela. Donc une démarche souple, mais quand même, à un certain moment, une démarche précise. C'est-à-dire que, à un moment donné, le défenseur des droits peut dire, monsieur le maire, par rapport à cette situation, je vous enjoins de réaliser tel ou tel équipement, et je vous mets un compte à rebours. Vous avez devant vous 2 mois, 6 mois, et dans 6 mois, vous me direz ce que vous avez fait. Voilà quels sont nos principes de fonctionnement. Je voudrais simplement ajouter que, effectivement, lorsque l'on parle d'accessibilité, on a tous, par réflexe, par mauvais réflexe, mais par réflexe, en image, le handicap, le handicap lourd, le handicap appareillé, le handicap avec chariot. En réalité, je regardais un peu avant de venir comment les choses se présentaient dans nos affaires, on pourrait presque dire que 25% de la population, de notre population, est concernée par une mobilité plus ou moins réduite, parce que, et c'est un phénomène qui s'aggrave avec l'âge. Les personnes âgées, est-ce qu'elles sont handicapées ? Pas vraiment, mais néanmoins, progressivement, elles le deviennent. Vous avez évoqué les femmes enceintes avec beaucoup de pertinence, parce que la femme enceinte, par définition, elle est plutôt en bonne santé, mais dans un temps bien précis de sa vie, elle est concernée par les problèmes que vous évoquez. Donc voilà comment je pourrais rapidement, pour répondre à la question posée, vous dire comment s'organise éventuellement la sanction à travers l'intervention du défenseur des droits.
Je fonde beaucoup d'espoir sur l'émergence des personnes âgées. Ça va être, je crois, un combustible relais considérable pour faire progresser les notions d'accessibilité dans notre société.
Madame.
Énergie nouvelle.
Excusez-moi, bonsoir. Je m'appelle Pascal Gustin, je suis chargée de mission patrimoine Vauban. Donc, je me permets juste de réagir par rapport aux architectes des bâtiments de France et vous faire part de mon expérience pour travailler depuis une bonne dizaine d'années avec les architectes des bâtiments de France et les architectes en chef des monuments historiques. Je peux vous dire que, en fait, les réflexions quant à l'accessibilité et l'utilisation, la réutilisation des bâtiments anciens et monuments historiques s'améliorent largement. On avance vraiment. Et pour peu que les projets soient discutés suffisamment en amont, on arrive toujours à trouver des solutions. Par contre, je conseillerais simplement aussi parfois de s'appuyer sur eux. Pour pousser un petit peu aussi les commerçants ou les entreprises ou les, je prends simplement l'exemple de la place forte de Longwy puisque je m'occupe du secteur de Longwy et tout autour de cette place effectivement donc se trouve quantité de banques et commerces avec justement cette petite défaillance et grande défaillance pour la personne en, avec un handicap, et notamment en moteur, et donc cet accès devient difficile. Et quand on traite des dossiers avec, par exemple, une banque, quelle qu'elle soit, la première réaction, c'est hop, tac, on met une rampe accessible sur la place. Ils vont en fait au plus simple. Et en s'appuyant parfois sur, justement, les architectes des bâtiments de France qui jouent quelque peu le mauvais rôle. Et j'en abuse d'ailleurs assez souvent. On arrive à faire accepter et à travailler en sorte que l'accessibilité se fasse différemment et souvent bien mieux que ce qui est proposé au premier abord. Et mais je rebondis aussi sur la question des entreprises. Il y a aussi toute cette formation qui est à faire auprès des entreprises et un travail de fond. Donc voilà, je voulais juste venir un petit peu en défenseur de cette corporation parce que ils sont aussi là pour travailler ensemble.
Très bien.
Tout à fait. J'avais fait une intervention à Versailles auprès de vos collègues sur cette question-là et j'avais quand même souligné l'effort considérable qui avait été fait depuis. Quand même, il faut bien reconnaître. Moi, je me souviens de ma jeunesse folle. Et à l'époque, les musées, les châteaux, les édifices publics historiques étaient absolument inaccessibles. Et je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, je suis passé récemment devant le Grand Palais à Paris, j'ai été littéralement interpellé par un agent qui était sur les marches, qui a vu que je passais, qui m'a dit: voulez-vous entrer ? J'ai quand même été stupéfait de voir le changement intervenu entre il y a 20, 25, 30 ans, où il fallait que je passe par des endroits absolument improbables pour entrer dans le Grand Palais, et à mes risques et ses périls, j'étais regardé non pas d'un mauvais œil, mais en tout cas comme un antiquineur. Et aujourd'hui, où on me dit mais venez, venez, entrez donc, je vais vous faciliter les choses. À ça, on mesure quand même l'évolution des mentalités. Ça, c'est incontestable. Mais vous avez raison de dénoncer les petites marches. Ces petites marches, c'est un poison, c'est une saloperie, passez-moi l'expression. Il n'y a pas, à Paris ou ailleurs, un magasin, un restaurant où il n'y a pas une petite marche. Ah, c'est rien, on va dire, on va vous aider, bien sûr. Sauf que c'est une histoire d'État, souvent, et que c'est quelquefois pas possible. J'avais dit à l'époque au ministre qu'il fallait essayer de faire comprendre à ces commerçants qui ont des petites marges qu'il suffit de très peu pour rendre les choses infiniment plus faciles. Ceci étant, on m'a répondu, on ne peut pas le faire parce que on ne peut imposer l'accessibilité de cette fameuse petite marche que si, dans les travaux de rénovation qui sont faits avant 2015, donc, c'était le cas, il y a une atteinte à la façade. Voilà. Il n'y a que dans l'hypothèse, il y a une rénovation de façade, que l'on peut imposer alors la mise à l'accessibilité par la suppression de la petite marche. Et on avait demandé qu'on informe au moins les chambres de commerce et d'industrie ou chambres des métiers, en disant aux personnes concernées, essayer de faire un effort. Ça a été, paraît-il, fait, avec un effet contestable. Ouais. Mais c'est long, hein, c'est vraiment très très long.
Pour vous accompagner, donc, monsieur a posé la question des aides financières, il y a aussi des aides liées à la formation de vos personnels, donc on va commencer par les aides et je reviendrai la parole à monsieur Menou par la suite.
Bernard Béraud, je suis représentant départemental de l'APF et un peu spécialisé en accessibilité. On a depuis le début énormément parlé gros sous. Et c'est effectivement la hantise des élus parce qu'ils veulent bien faire quelque chose, mais ça coûte cher et ils n'ont pas de subvention. Alors que ça coûte cher ou que ça coûte pas cher, les subventions ne sont pas là. Mais je m'interroge. Je suis contribuable, je regarde toujours mon état payé. Et puis, sans vouloir être naïf, les conseillers généraux sont aussi souvent maires. Mais concernés. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que rien ne prévoit des subventions pour l'accessibilité, et c'est bien dommage, et je ne comprends pas pourquoi on a fait ça, parce que les élus qui décident de ne pas financer auraient pu très bien décider de financer. Et je me rappelle quand même que le Conseil général de Meurthe-et-Moselle a été innovant dans certains secteurs. Pourquoi ne le serait-il pas dans ce domaine? Et accorder des subventions en partant sur des bases, bien entendu, par exemple une commune qui peut être obligée de faire un ascenseur, ça coûte de l'argent, on pourrait peut-être prendre une partie en charge, etc.
Ça fait partie des trois critères sur les 9 critères de développement durable que le Conseil général donne.
Alors, je suis tenté de dire, et j'ai quelque chose qui m'a plu énormément tout à l'heure avec Mme Falk, c'est qu'on a un défi à relever. Ça, c'est intéressant. Et comme on est aujourd'hui dans le cadre de ce que vous savez, je pense que vous, élus, maires, conseillers généraux, agissez. Maintenant, je voudrais parler un petit peu, donc, vite fait, des aides que vous pouvez obtenir. Et elles sont de plusieurs ordres. Alors, je parlerai simplement de ce qui a été fait au Charmont-Lorrain, qui a été précurseur et moteur avec les commerçants et les artisans. Ils ont l'aide du FISAC, et ça, c'est pas inintéressant. En sachant que vous êtes un peu concernés par les commerçants, parce que si il ne peut pas rentrer directement parce qu'il y a une petite marche, grande ou petite, le problème est le même, qu'elle fasse 3 cm ou 30 cm, le problème est le même, sauf dans sa réalisation, il sera dans ses travaux. Par contre, vous pouvez être concerné parce que ça agit directement sur le trottoir, et le trottoir, c'est vous. Alors, là, il y a obligatoirement entente à avoir. Donc, et là, il y a les aides de FISA qui peuvent aller, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à 40%. C'est quand même pas négligeable. Maintenant, au niveau de l'accessibilité, puisqu'on est en train de parler d'accessibilité, l'accessibilité à l'emploi. L'accessibilité à l'emploi, eh bien, c'est les personnes handicapées sur un poste de travail. Et là aussi, il y a des aides. Alors, il y a toujours eu des aides au niveau de la GFIP pour les entreprises privées, mais depuis peu, il y a des aides maintenant aussi pour les entreprises de... Quand c'est pas privé, c'est d'État, les administrations, qui ont aussi l'obligation d'avoir des personnes handicapées, et là aussi, elles disposent d'aides. Donc c'est pas négligeable, d'autant que ça permet d'embaucher des personnes, et dans des entreprises, comme par exemple le Conseil général, où il y a quand même pas mal de monde, pas de public, quelques personnes, je crois, on doit quand même trouver une place et du boulot pour tout le monde. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont déjà en place, et on peut aussi embaucher au fur et à mesure des besoins.
En effet, pour les collectivités territoriales, le Conseil général, on a une convention avec le FIP, mais toute collectivité territoriale, dès qu'ils embauchent une personne porteur d'un handicap, vous pouvez joindre le FIP et ils vous aident à mettre les établissements aux normes, au regard de l'handicap de la personne. Pas pour de l'ERP, pour la partie agent de votre collectivité.
Anne-Marie.
Oui.
Le FIP.
C'est FIP. Qu'est-ce que c'est FIP? Fonds d'insertion pour l'accessibilité.
Ah non, mais parce qu'il y a des gens.
Simplement pour expliquer l'acronyme, donc il s'agit du fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique.
Voilà. C'est l'équivalent de la GFIP.
Oui, c'est l'équivalent
pour
le prix. Fonction publique. Voilà. On a aussi d'autres appuis, donc, en tout cas sur le département de Meurthe-et-Moselle, sur aussi, là on a beaucoup parlé d'accessibilité des bâtis, mais il ne faut pas seulement. Vous avez aussi dans vos communes des agents qui accueillent le public, et des fois ça permet aussi de recevoir au mieux les personnes, les usagers. Donc c'est une FPT qui forme les agents des collectivités territoriales, et l'AEIM qui aussi donne des formations.
Bonsoir, donc je vous prie d'excuser Monsieur Jean-Jean, président de l'AEIM, qui vous aurait parlé avec passion et brillamment l'accessibilité des personnes déficientes intellectuelles.
Donc, pour ma part, je vais essayer de vous faire partager l'expérience, parce que moi, je suis formatrice dans ce qu'on nous on appelle la campagne S3A, qui est accueil, accompagnement et accessibilité, et qui est en fait une campagne de formation qui peut être dispensée à tout le monde. Alors, effectivement, on parle beaucoup des agents d'accueil des communes, mais elle concerne aussi, pourquoi pas, les aides maternelles dans les écoles, les personnels de crèche. Donc le but, effectivement, n'oublions pas que l'accessibilité, effectivement, l'accessibilité motrice, mais que quelquefois aussi, il y a l'accessibilité de la personne. Alors, on parle, nous, de déficience intellectuelle, mais pas que. Ça peut être la personne âgée vieillissante qui commence un petit peu à perdre des facultés cognitives, mais ça peut être aussi une personne étrangère, une personne en situation manque d'alphabétisation ou d'illettrisme. Et donc la campagne de 3A, effectivement, vient vous donner la possibilité de vous mettre en norme en ce qui concerne l'accessibilité des personnes, de ces personnes. Bon, en ce qui me concerne, je parle plus volontiers des personnes déficientes intellectuelles parce que c'est mon boulot. C'est un logo qui est normé, on l'a aperçu tout à l'heure, c'est la double personne, donc la personne accueillie et la personne accompagnante. Et effectivement, de faire former vos personnels à cette sensibilisation. Ben là, on a parlé pour dessous. En tout cas, en ce qui concerne la demi-journée de sensibilisation, c'est gratuit. C'est une sensibilisation qui est nationale, puisqu'on est affilié à l'UNAPEI, et tout le monde est formé sur le territoire français avec un PowerPoint. Voilà, et donc, elle est diffusée au niveau national, et c'est tout le monde qui est formé de la même façon. Et ça coûte rien, puisque l'UIM ne demande quasiment pas de financement. Donc voilà, c'est aussi une façon simple de commencer à se mettre en adéquation. Alors, j'ai pas de plaquettes, mais en tout cas, là, je remplace un petit peu Madame Coralie Vincent, qui est la chargée de mission au sein de la UIM. Je vous engage à vous rapprocher d'elle. Donc, au sein de la UIM, on a différents personnels qui sont formés. On essaye de rebalayer qu'est-ce que la déficience intellectuelle, qu'est-ce que le handicap psychique, parce que souvent il y a une méconnaissance, hein, comment on peut les accueillir. Et à l'issue de cette demi-journée, alors il faut le faire en 1h30, mais c'est vrai. Moi, pour former, je suis bavarde, donc ça fait toujours un petit peu court. En ce qui concerne vos personnels, à l'issue de la formation, bah, déjà, vous pouvez poser le logo. Ils sont formés à un accueil respectueux de la personne déficiente intellectuelle. Ils commencent à adopter les bons comportements. Et souvent, c'est des comportements simples, de bon respect et de bonne éducation, j'ai envie de dire. Et surtout, ils sont en capacité de renseigner ces personnes. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. Il suffit d'en faire la demande. Et je crois que c'est important parce que les personnes déficientes intellectuelles, elles ont accès. Elles ont accès aussi à la vie citoyenne. Elles ont besoin d'être... Voilà, donc ça peut concerner les clubs de sport, de culture, de loisirs, mais également l'exercice. On va bientôt être en campagne électorale. Également l'exercice de leur droit de vote parce qu'elles ne sont pas forcément déchues de leur droit de vote, contrairement à ce que quelquefois les idées répandues. Mais ça peut être aussi simplement... comment aider une équipe qui accueille, par exemple, dans la petite enfance, aider une équipe à simplement pas se faire toute une montagne d'un enfant qui est différent, qui est porteur d'une déficience. Et puis, je voudrais simplement terminer là-dessus en disant qu'on essaye aussi de faire passer le message qu'on ne caractérise pas la personne par son handicap, mais bien d'abord par ses compétences et par ce qu'elle est, par ses goûts, par ses capacités. Et à l'issue de ça, voilà, on essaye de pas forcément dire voilà ce qu'elle ne sait pas faire, mais voilà aussi ce qu'elle sait faire. Et on dit aux personnes, quand la personne vient vers vos services, renouveler une carte d'identité peut-être tout simplement, quand elle vient seule, c'est qu'elle est en capacité de le faire et qu'elle a simplement besoin d'un tout petit coup de pouce pour pouvoir être accessible. Simplement, quelquefois, ce n'est que l'accompagner et simplement ne pas dire c'est la porte en haut à droite parce que peut-être simplement elle ne sait pas où est sa droite. Mais qu'elle peut parfaitement, remplir les papiers et pouvoir, par exemple, toute seule renouveler sa carte d'identité. Donc, faire un petit peu tomber les tabous, ne pas avoir peur de la personne qui est forcément... il se balade pas avec un écran, je suis déficient intellectuel, mais effectivement, comment se rendre compte que la personne a simplement besoin d'un tout petit peu d'aide. Voilà, donc je vous engage à entamer en tout cas ce processus de sensibilisation auprès de vos équipes, et plus largement que... Bon, bien sûr, on pense au personnel d'accueil des mairies, mais pas que. Je pense que l'ensemble des personnels communaux peuvent être formés, mais pourquoi pas aussi... mutualiser les moyens en intercommunalité, sur des clubs, sur des associations. Et en tout cas, nous, on est prêts à répondre à la demande. Voilà.
Merci. Donc, mon partenaire Laurent Anso, donc association des maires, pardon.
Je me suis permis de faire un petit condensé des aides que vous pourriez solliciter dans le cadre de vos travaux. Mais comme vous l'avez bien vu, déjà avant d'avoir des recettes, il faut savoir maîtriser ses dépenses. Et c'est vrai que dans le cadre d'une mutualisation, donc dans le cadre d'un groupement de commandes, par exemple, avec comme pilote, comme coordinateur, la communauté de communes, ça vous permettrait déjà, effectivement, peut-être d'avoir des économies d'échelle. Donc, c'est vrai que la liste des recettes que je vous ai données est quand même assez maigre. Néanmoins, vous le savez, les collectivités n'ont pas droit à une compensation de la part des services de l'État, de l'État pour cette mise en accessibilité. On l'a bien vu, que ça pouvait représenter des coûts qui étaient quand même assez importants. Néanmoins, sachez que avec certaines aides, donc forcément qui sont éligibles à certaines conditions, donc il y a un dossier assez complet pour chaque aide que je ne pouvais pas synthétiser dans cette petite feuille. Mais c'est vrai que la DETR, donc dans le cadre de la DETR, c'est une dotation qui est toute récente, c'est une fusion de l'ancienne dotation globale d'équipement et la dotation de développement rural. Donc ça vous permet effectivement pour certains projets d'obtenir un financement qui peut aller donc entre 20 à 30% en fonction du projet. Bien entendu, il faut vérifier que le projet est bien éligible. La dotation générale de décentralisation relative aux bibliothèques municipales pour des créations ou éventuellement des extensions de bibliothèques de lecture publique. Donc ça, c'est effectivement un élément qui est important. Vous pouvez obtenir des financements aussi pour les aménagements, toujours dans le cadre de bibliothèques municipales. Alors, je vous ai mis à chaque fois des références, je ne vais pas tout lister. J'ai simplement tellement synthétisé une aide. Il s'agit d'aide d'accessibilité, donc du fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique. L'aide dont on a parlé, j'ai tellement synthétisé que j'ai oublié de mentionner un chiffre sur mon numéro de téléphone. Donc, j'en profite d'avoir la parole pour finalement compléter. Donc, le dernier chiffre, pour que le numéro soit complet, c'est 33. Et bien entendu, le centre de gestion, comme l'a indiqué son président, M. Forain, donc, est également là pour pouvoir vous accompagner dans ces démarches. Donc, il y a une liste d'aides que des personnes privées, maîtrises d'ouvrage privées, peuvent également obtenir, donc notamment pour les logements. Donc voilà. Et comme les aides ne sont pas simplement liées à des mises en accessibilité de bâtiments, donc soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, vous avez effectivement de l'autre côté de la page des accompagnements financiers qui peuvent être organisés. On parlait justement des élections prochaines, mais vous verrez dans la liste de la Fondation de France au niveau de ces aides, on peut envisager des financements pour le débat public, organiser des choses. Donc je ne serai pas plus long. Voilà.
Merci.
Bonsoir.
Je vais vous demander de vous présenter, je ne l'ai pas fait. Oui.
Alors, c'est contrairement à ce qui est écrit dans le programme, je ne suis pas Philippe Le Maire, mais Gabrielle Huret. Donc, mon président s'excuse de ne pas vous dire, on est un peu surchargé en ce moment. Donc, je suis de la société FITEC, je suis ingénieure conseil en accessibilité. Nous sommes une société qui est spécialisée dans le conseil et la mise en accessibilité pour les personnes déficientes visuelles. Et on essaie de développer notre offre en prenant en compte, évidemment, les autres handicaps, notamment la déficience auditive et le handicap mental. En tout cas, dans les produits qu'on vend, on essaie de ne pas être opposé aux autres types de handicap. Après, tout ce qui est handicap moteur, c'est moins notre spécialité. On intervient vraiment sur des choses qui sont plutôt faciles à ajouter dans le bâtiment qui ne seraient pas conformes. Et on ne touche pas à la structure du bâtiment. Donc, je vais juste commencer par déjà vous faire un petit rappel chiffré pour vous montrer que il ne faut pas oublier les autres types de handicap. Et donc, voilà quelques chiffres qui vous montrent que il y a quand même une grande partie de personnes qui ont tout d'abord un handicap auditif, donc 5 millions de personnes. C'est le handicap le plus représenté en France et dans le monde. Ensuite, donc, on a le handicap moteur. Il faut savoir que les personnes en fauteuil sont 850 000 environ. Enfin, ce sont des vieux chiffres, ça augmente malheureusement. Mais bon, donc, il faut aussi penser aux personnes déficientes visuelles, au handicap mental et au handicap auditif, qui vont être des handicaps, on va dire, plus faciles à traiter au niveau de l'accessibilité. Donc, voilà, je vais faire bref, je ne vais pas tout expliquer.
expliquer. Donc, nous, comme on est spécialisé dans la déficience visuelle, je vous montre un peu les différences. Donc, vous avez les personnes aveugles, mais ce ne sont pas les plus nombreuses. Il ne faut pas penser que les personnes aveugles, on va mettre du braille et puis on va régler le problème. Vous avez aussi d'autres types, donc comme les personnes malvoyantes, qui vont avoir, c'est pareil, c'est pas une catégorie avec un handicap, mais ça va être très divers. Et vous allez avoir, par exemple, des personnes qui vont avoir une vision floue. Donc ça, c'est principalement des personnes qui vont avoir la cataracte, par exemple. Donc là, ça va vraiment toucher aussi les personnes âgées, notamment. Même si en France, maintenant, on arrive à faire des opérations qui permettent de... Voilà, quand c'est traité tôt, on arrive à régler ce problème de cataracte. Mais bon, il y en a encore. Vous avez la perte de la vision périphérique, donc une vision tubulaire. C'est comme si vous alliez regarder dans un rouleau de papier toilette. Hein. Donc vous allez là avoir des problèmes beaucoup pour vous déplacer dans la rue. Vous n'allez pas voir les flux de personnes, les voitures qui vont arriver. Vous allez par contre avoir une acuité visuelle qui va vous permettre... Vous allez avoir du mal à vous déplacer sur le trottoir dans la rue. Par contre, vous pouvez très bien voir cette personne s'asseoir à l'arrêt de bus et lire son journal sans aucun problème, puisque son acuité visuelle centrale va lui permettre de lire. Et ensuite, vous avez à l'inverse, les personnes qui vont avoir... leur acuité visuelle, leur vision centrale abîmée. Ça peut être un cercle au milieu, donc là, ça peut empêcher de voir le danger arriver, un tramway qui va être dans son champ, on ne va rien voir arriver. Ça peut être plusieurs tâches. Hein. Donc tout ça, c'est des différents types de maladies qui peuvent arriver, et notamment des conséquences du diabète, qui peuvent faire ce type de vision. Et malheureusement, le diabète augmente, surtout dans nos populations occidentales, avec la montée de l'obésité notamment. Donc ce sont des problématiques à prendre sérieusement en compte. Et puis il y a aussi tout ce qui est DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et donc c'est sur le même principe des pertes de vision centrale, ou ça peut être aussi des visions déformées. Enfin bref, tout ça pour vous dire que on ne va pas avoir une solution qui va répondre forcément à toutes ces différentes particularités. Par contre, plus on va multiplier les solutions, plus on va avoir un champ de personnes de toucher et qui vont pouvoir accéder et avoir l'information comme tout le monde. Donc juste très rapidement quelques points sur la réglementation qui nous concerne plus au niveau du handicap visuel. Donc les principales choses sont repérer l'entrée. On peut rendre accessible tout un bâtiment, mais si la personne n'arrive pas à trouver la porte d'entrée, c'est pas la peine. Donc pour une personne aveugle ou très malvoyante, lui signaler l'entrée correctement avec des contrastes, avec une information sonore. Je sais que maintenant c'est obligatoire d'équiper vos traversées piétonnes avec des systèmes sonores. On peut aussi équiper l'entrée de ces bâtiments, notamment la mairie et donc les bâtiments principaux, de ce système qui va être compatible avec les traversées sonores et qui vont permettre de trouver la porte d'entrée et ensuite d'indiquer où est l'accueil. Et au niveau de l'accueil, les personnes sont là. Si elles sont formées, c'est encore mieux, mais elles pourront rediriger la personne, l'aider dans le bâtiment, même si ce n'est pas totalement conforme par la suite. On va avoir, donc voilà, accéder de façon autonome à l'accueil, ce que je disais, aux services proposés dans le bâtiment. Et donc aussi, ce qui est très important, et on n'y pense pas toujours, ça va être l'accès à l'information. Donc, je vais rester très basique, mais les horaires d'ouverture, on les a toujours écrits sur la porte. Bon, ils sont écrits, déjà ils ne sont pas forcément très visibles pour tout le monde. Voilà, et une personne aveugle, elle n'a pas accès à ces informations. Et il y a aussi, donc, c'est plus notre domaine, mais il y a aussi l'accès à l'information par les sites internet. Donc comme le disait Monsieur Bonnet, la personne en situation de handicap, elle prépare son voyage à l'avance, et donc si elle a des sites accessibles, notamment pour les personnes déficientes visuelles, compatibles avec les logiciels, elle va pouvoir... s'informer et savoir déjà éventuellement si vous renseignez, s'il y a des marches à l'entrée ou si vous avez des équipements spécifiques pour eux, vous pouvoir aussi prévoir comment elles vont faire. Donc, nous, chez Fitech, donc on reprend les diagnostics en général, donc on sait les lire déjà, parce que des fois, ce n'est pas toujours si facile. On détecte très souvent des erreurs, donc on informe. Alors après, on informe, et quand ce n'est pas écrit sur le diagnostic, on a du mal à faire passer le message, puisque souvent, les bureaux de contrôle ne sont pas toujours hyper compétents et ne connaissent pas tout. Et donc quand ce n'est pas écrit sur le papier, malheureusement, on a du mal, mais on signale. Ensuite, on propose les équipements les plus adaptés. Alors, il y a différents produits. On essaye aussi de voir avec le propriétaire des lieux s'il cherche un esthétique ou s'il a un budget restreint, etc. Donc, on essaye de trouver les meilleurs équipements possibles. Et ensuite, on peut faire l'installation. On n'a pas des installateurs en interne, mais on travaille avec des prestataires qu'on a formés, des petits entrepreneurs, qu'on a suivis au moins sur quelques chantiers au début. Et donc, parce qu'on a eu des très mauvaises surprises, effectivement, comme vous l'avez dit avant, avec des bandes de guidage qui mènent sur un mur, sur un poteau ou autre. Donc, on a besoin de former nos installateurs aussi. Voilà. Et puis, on va même jusqu'à, si évidemment le client le désire, former et informer les personnes, les travailleurs, au moins le personnel d'accueil, sur les choses qu'on a mises en place, à quoi ça sert, comment elles sont utilisées par les personnes handicapées, et éventuellement faire une mise en situation dans leurs locaux qui ont été équipés. Et donc, voilà. Parce que, en fait, on s'est aperçu qu'on installait des boucles magnétiques, par exemple. Donc, ce sont des systèmes qui amplifient le son pour les personnes malentendantes dans leur appareil auditif, ou si elles ne sont pas appareillées dans un combiné. Donc, ça leur permet vraiment de mieux comprendre la personne à l'accueil. Mais alors, on installe ça, et puis la personne au guichet, elle ne sait pas ce que c'est, elle n'est même pas au courant qu'il y en a un. Donc, c'est aussi important de bien informer, notamment le personnel d'accueil. Donc voilà, bon, ça c'est une image qui représente à peu près toutes les solutions que nous on propose. Je vais passer directement à quelques exemples de réalisation. Donc au niveau de la signalétique, donc, nous on favorise tout ce qui est son et tout ce qui est tactile pour les déficients visuels. Et évidemment, on utilise un maximum de pictogrammes, comme ça, ça aide aussi tout le monde, et en particulier les personnes qui ont un handicap mental. Après les solutions sonores, ça va être des solutions qui vont permettre donc par le haut-parleur de repérer l'entrée d'un bâtiment, donc on se dirige vers le son, et de mettre toutes les informations nécessaires comme où se situe l'accueil, les horaires d'ouverture, où sont les principaux services, ou si c'est pour des commerces, on peut mettre une promo du jour ou autre. Enfin, bon, ça c'est personnalisable. Et donc ça marche avec la télécommande qui est universelle. Et donc, si c'est une télécommande d'un autre concurrent, on va pouvoir quand même actionner ce haut-parleur qui va permettre de s'orienter et d'avoir les informations. On a tout ce qui est bande de guidage, donc on a différents types avec différents budgets, effectivement, donc des choses plus ou moins jolies, plus ou moins chères. Donc, on va emmener la personne, notamment. Alors, les bandes de guidage ne sont pas forcément obligatoires, et elles sont nécessaires que lorsqu'on a des grands espaces et que la personne peut se perdre. Si on a un trottoir bien délimité, là, la personne va détecter avec sa canne le bord du trottoir. On ne va pas rajouter une bande de guidage par-dessus qui va gêner en plus les roues du fauteuil ou autre. On la met vraiment quand c'est nécessaire. Dans un couloir, de même, la personne n'a pas besoin de bande de guidage. Donc nous, on est là aussi pour conseiller et pas vendre quand c'est pas la peine. Là, on a travaillé beaucoup avec les personnes en situation de handicap visuel, notamment les associations comme la Fédération des aveugles de France ou le GIA à Nancy. Et donc, on fait partie d'un comité éthique aussi, et donc on ne va pas préconiser des choses qui sont inutiles. Et ensuite, vous avez tout ce qui est escalier. Et donc il n'y a pas que les mains courantes, il y a aussi tout ce qui est contraste de données de marche, et surtout les bandes d'éveil à la vigilance, donc en haut des escaliers, bien positionnées, donc à 50 cm de la première marche, de façon à ce qu'on ait le temps de la repérer. Voilà, il y a une distance de foulée qui a été calculée, enfin, bon, Et donc, ça permet de, voilà, d'avertir la personne. Elle sent et elle ne va pas tomber dans les escaliers si elle s'en aperçoit trop tard. Cet élément, ça aide aussi les personnes qui sont scotchées sur leur iPhone et qui pourraient, qui pourraient aussi dégringoler dans les escaliers. Donc, ça aide un peu tout le monde. Donc voilà, après, en termes de coûts, si je peux vous donner des ordres de grandeur, par exemple, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse, une balise sonore, ça va être, suivant ce qu'on veut y mettre et l'interactivité, etc., on a vraiment des ingénieurs qui développent ces produits, donc ça va être entre 500 et 1000 euros. Donc voilà. Après, vous avez tout ce qui est signalétique, donc avec du braille, un pictogramme et du relief. L'idéal étant d'avoir les trois, puisqu'on va toucher un maximum de personnes. Ça va être dans les, on va dire, 30 à... ça peut aller... Enfin, après, tout dépend de ce que vous voulez indiquer, mais un panneau comme on a là, ça peut aller de 30 euros à 80 euros, suivant le design, etc. S'il y a une conception graphique à faire, donc ça peut aller encore plus loin. Vous avez tout ce qui est bande de vitrage, donc ça c'est vraiment obligatoire même depuis longtemps et surtout dans le code du travail, mais ça va être un rouleau de 10 mètres linéaires qui va coûter 15 euros. Hein. Voilà. Une bande d'éveil, ça va être dans les 40 à 200 euros. Tout dépend, voilà, si vous mettez des clous. Et ce qui va coûter cher, ça va être des fois la mise en place, l'installation, voilà, des clous, c'est hyper long à mettre en place. Alors qu'une bande en caoutchouc, bon, bah, ça peut être très rapide. Et puis, bon, c'est pas toujours esthétique, mais en bande de guidage également, ça peut aller de 50 à 250 euros. Si on met des belles petites lattes en laiton doré, bon, on est tout de suite. Mais bon, ce sont des coûts qui sont quand même, je parlais au mètre linéaire, des coûts qui sont quand même mineurs par rapport à créer une rampe d'accès, et ce sont des choses qui peuvent être rapides à mettre en place et qu'on peut peut-être réaliser avant 2015. Donc voilà, si vous avez des questions, par contre pour des cas particuliers, n'hésitez pas éventuellement à nous demander des devis ou à nous demander de nous déplacer dans vos communes, puisque nous on a notre siège qui est à Villers-Nancy, donc on est quand même loin. Puis moi, je fais partie de l'agence de Paris.
Merci.
Merci.
Merci. Merci beaucoup.
Et alors, monsieur Cunha.
Gabriel Huret, merci beaucoup. J'ajouterai Cuitec et partenaire de l'association des maires. C'est à ce titre que vous étiez là. Je vous remercie vraiment. Il nous reste Stéphane. Ouais. Stéphane Cunha, l'électricité. Voilà, éclairage public, rôle de l'éclairage public en matière d'accessibilité. Merci.
Bonsoir, alors je ne devais pas intervenir, je devais intervenir, mais c'est pas grave. En fait, j'interviens souvent auprès des élus. Des élus qui sont ici dans la salle, tout sur des projets d'aménagement où il y a de l'éclairage public. Alors ce soir, la question était, est-ce qu'il faut tenir compte de l'éclairage public dans le cadre de l'accessibilité? La réponse est bien évidemment oui. Alors ce soir, dans toutes les photos qu'on a vues, on n'a vu aucune photo de nuit. Hein, on a toujours vu l'accessibilité de jour. Donc, et c'est aussi un témoignage que je souhaite vous faire partager. Parce qu'en France, aujourd'hui, il n'y a aucun texte qui oblige un élu, hein, dont l'éclairage public relève de ses pouvoirs de police, à éclairer une voie publique. Aujourd'hui, au clair, vous pouvez éteindre, vous pouvez mettre les niveaux d'éclairage que vous souhaitez sur une voie publique. Je n'ai pas dit un cheminement accessible. Le seul texte en France aujourd'hui qui traite d'obligation de niveau d'éclairement sur les espaces publics, c'est en fait l'arrêté du 1er août 2006 qui, dans son article 14, va fixer des niveaux d'éclairement en luxe pour l'accessibilité aux bâtiments, aux ERP. Et c'est important parce que ça veut dire que le monde de l'éclairage, Madame Pilote disait tout à l'heure, c'est la concertation entre les acteurs, on parle de transversalité. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, si déjà certains bureaux d'études ou contrôleurs spécialisés dans l'accessibilité peuvent parfois avoir des carences, les bureaux d'études compétents en éclairage public ne connaissent pas l'accessibilité aujourd'hui au niveau de l'éclairage. Et donc c'est bien à vous, élus, on parlait tout à l'heure de volonté pour faire les choses, c'est bien un but, vous emparer des projets où il y a de l'éclairage pour pouvoir avoir cette transversalité et intégrer l'accessibilité en termes d'éclairage. Et ça, aujourd'hui, c'est très rarement fait. C'est bien l'élu qui doit définir son programme et fixer ses objectifs, y compris en accessibilité. Et donc, il y a deux mondes qui s'entrechoquent. Un monde, quand on parle avec certains électriciens, le pod, ils ne savent pas toujours ce que c'est. Hein. Donc ça veut dire que quand on parle d'éclairement, ben, on doit mettre aussi en cohérence le pod et puis le projet pour pouvoir tenir compte de l'éclairage et de l'accessibilité. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, en matière d'éclairage, je ne suis pas tous les... Laurent, tu mettras les documents sur le site. Aujourd'hui, en termes d'éclairage public, les premières questions des élus, c'est on veut faire des économies d'énergie. Et quand on regarde les niveaux d'éclairement qui sont imposés par les textes sur l'accessibilité, notamment sur l'accessibilité aux ERP et sur les cheminements dits accessibles, on est à des niveaux d'éclairement qui sont au minimum à deux fois supérieurs au niveau d'éclairement que nous, on va préconiser sur les voies publiques. Donc ça veut dire que c'est vraiment une attention particulière à avoir, et que parfois, il va falloir mettre des équipements supplémentaires que l'éclairage public traditionnel dans le cadre d'un aménagement de voirie normal. Donc on parle de 20 lux, alors en tout point sur les cheminements extérieurs, 20 lux en tout point, ça veut dire 20 lux minimum. Alors que sur une voie publique aujourd'hui, on est entre 10 et 15 lux moyen. Sur un trottoir normal, on va être à 3 lux. Donc vous voyez quand même les différences d'éclairement nécessaires pour atteindre les objectifs. Et je ne parle pas de l'escalier qu'on a vu tout à l'heure, où on parle de 150 lux. D'accord ? Donc, avoir ces références-là en tant qu'élu, l'éclairage public, c'est quelque chose qu'on traite pour l'accessibilité. Monsieur Menoux disait tout à l'heure, on ne fait pas des cheminements accessibles partout sur les petites communes. Bah, il faut définir dans son peuple les cheminements nécessaires, et puis les aménager bien, y apporter la lumière nécessaire. On se retrouve donc face aux lois de Grenelle, au code de l'environnement. Aujourd'hui, on cherche à économiser l'énergie. Donc on peut travailler sur l'accessibilité aussi avec des équipements qui permettent, par exemple, de faire des détections. Donc avoir des éclairages qui peuvent être dynamiques. Donc l'arrêté le prévoit. Attention, hein, donc toujours avoir un confort d'éclairement et de visuel pour la personne. Quand on regarde cette photo, on voit que atteindre les 20 lux, voilà, atteindre les 20 lux, on va dire, je ne sais pas si on a 20 lux là, hein, au sol, mais en tout cas, on est toujours du côté de l'éclairage public où il y a le support d'éclairage public. Donc la commune qui déciderait d'en accessible tous ses trottoirs, vous voyez qu'ici, on n'a pas du tout le niveau d'éclairement suffisant, et donc il faudrait ajouter des luminaires des deux côtés de la route, d'où un surcoût. Et donc, quand on vous établissez votre pub et vos cheminements, on a toujours à avoir en tête, bon, c'est peut-être pas nécessaire de vouloir le rendre accessible tous les trottoirs. En tout cas, en termes d'éclairement. Hein. Voilà, donc, vous voyez ici un chemin qui serait comme ça, et on repasse de l'autre côté sur un autre côté de la rue où sont situés les candélabres. Alors ici, c'est intéressant, vous voyez qu'ici, on va changer de type de lumière. Donc ici, on est sur... une lumière très blanche avec des indices dans une couleur très haut, et on disait tout à l'heure qu'on travaille sur les contrastes, notamment sur les escaliers. Et vous voyez qu'ici, avec ce niveau d'éclairement, on va pouvoir voir les contrastes entre les revêtements, entre les couleurs. On a vraiment un rendu des couleurs très intéressant. Alors, on verra tout à l'heure sur le slide d'après. Vous voyez qu'ici, quand on passe sur une autre technologie d'éclairage, on va être dans un environnement où tout est jaune. Et là où de jour, vous aurez fait des contrastes qui permettent justement de voir bonnet de marche, vous pouvez le soir, avec un mauvais éclairage jaune, ne plus voir du tout ces contrastes-là. Donc le soir, vous pouvez avoir un environnement complètement différent en termes d'accessibilité. Voilà, donc identifier la signalisation. Donc, je prenais le contraste, vous voyez, de jour, on pourrait être sur... des pictogrammes, on sait lire, et quand on met du orange, vous voyez que le contraste entre les couleurs, on ne voit plus, on ne voit absolument plus rien. D'accord ? Donc sur des revêtements ou des matériaux, vous êtes sur des éclairements plutôt blancs, quand on arrive sur des éclairements plutôt au sodium, donc les éclairements qu'on trouve un peu partout, vous voyez qu'on dénature complètement les couleurs, et que l'appréciation de l'environnement est complètement différente. Donc, ayant en tête, sur l'accessibilité, plutôt travailler avec des couleurs, ce qu'on appelle l'indice d'ordre des couleurs élevées, donc plutôt des lampes blanches. Et puis, sur l'approche de vos projets, et ça on le dit toujours, on ne fait pas l'éclairage pour faire l'accessibilité, on ne fait pas l'accessibilité pour faire l'éclairage. quand on traite un projet d'aménagement global, construction de réseau ou autre, il faut toujours prendre de la hauteur et que l'élu puisse dessiner son projet, y compris en matière d'éclairage et d'accessibilité lumineuse, en fixant réellement sur les zones d'aménagement les objectifs d'éclairement, de fonctionnement de son installation. C'est comme ça qu'on maîtrise déjà d'une part le coût d'investissement et de fonctionnement et qu'on peut répondre en parallèle au PAB ou aux orientations du PAB. Donc ce dernier slide, simplement ça, c'est un cas qui a été réalisé en Moselle. Où on voit à gauche, vous êtes sur des poteaux béton traditionnels, hein, avec les fameuses lampes à vapeur de mercure, les lampes blanches qui vont bientôt disparaître. Vous voyez qu'on a un éclairement qui, dans la réalité, est plus faible que ça. Hein. Dans les essais, on était plus foncé tout à l'heure, j'ai un peu plus de luminosité. Donc on est plutôt sur des niveaux d'éclairement de 3, 4, 5 lux moyens sur l'espace. Vous voyez l'effet qu'on peut avoir quand on renouvelle les lampes en technique vapeur de sodium haute pression, où là, on a vraiment, alors qu'ici on pouvait voir certaines couleurs, ici on écrase tout par le orange. Vous avez vraiment un effet qui est calamité en matière de confort visuel. L'aménagement qui ici donc, a été réalisé, on voit certains cheminements qui ont été mis plus en lumière que d'autres, avec une attention sur la maîtrise après de l'éclairage, après une certaine heure, on va couper la mise en valeur de l'église, ce qui va devenir une obligation, hein, au 1er juillet 2013, et abaisser en fait la puissance sur les cheminements qui étaient plus éclairés avant. Voilà, donc j'ai été très rapide, mais c'était surtout pour bien vous faire prendre conscience qu'en matière d'éclairage public, les bureaux d'études auxquels vous faites appel ne sont pas spécialement compétents déjà en éclairage, mais encore moins en accessibilité. Donc c'est vraiment à vous, élus, à vous emparer de vos projets et à clairement définir vos besoins et vos objectifs en termes d'aménagement et d'accessibilité. Voilà.
Merci. Éclairage des églises,
on arrive au terme de notre séance de travail, donc j'ai pas été très bon censeur parce qu'on n'a pas pu respecter exactement l'horaire, donc je vais essayer d'être très court dans le propos de conclusion qui m'est imparti. Moi je crois que au-delà des trois premiers intervenants, Monsieur Bonnet, qui s'y refuse le titre de philosophe, nous a fait une belle démonstration au moins avec des propos remarquables d'humanisme, parler de pouvoir se définir autre en parlant du hasard, ou d'exclure l'imprévu en parlant de spontanéité, ou d'assigner un territoire en parlant de l'espace, je crois que là on est vraiment au cœur philosophique de la problématique du monde du handicap. Pour nous finir par l'usage du monde, je crois que là aussi M. Bonnet nous a fait une belle leçon de ce qui peut être amélioré dans cette problématique du handicap qui nous concerne tous. Michèle Pilot, elle, a rappelé vraiment de façon, à sa façon, que j'en connais bien, ce que devait être l'élu dans cette problématique, hein, le mailleur, l'acteur de la mise en réseau. Moi, je pense qu'elle a vraiment répondu à ce que nous devions être, nous les élus, dans ce travail à faire sur le handicap. Hein. Rappelez que le handicap doit être une situation ordinaire. Je crois que c'est quelque chose d'important de ne pas faire ce classement par tranche. Je crois mettre nous mettre tous sur la même dynamique, je crois que c'est important. En parlant également de l'emploi, qui est vraiment sur, encore en France, un sujet sur lequel on est un peu tabou. Moi, je suis au-delà de mes fonctions d'élu, président d'une maison de l'emploi, et je sais qu'il est très difficile actuellement de faire participer nos entreprises à cette responsabilité qui est la nôtre. Je crois que M. De Villiers nous a démontré que dans nos territoires ruraux, je crois que c'était à l'échelle de l'intercommunalité qu'on pouvait faire quelque chose de pertinent. Je crois que le Chardon Lorrain nous a démontré par la manière dont il s'est pris qu'il pouvait aboutir à des solutions, je dirais peut-être plus rapides que d'autres, de façon individuelle. Le maire de Vex nous a aussi fait état de son expérience, et je crois que là aussi, de façon individuelle ou de façon intercommunale, je crois que là, on peut avancer. Donc, moi, je voudrais aussi remercier tous les acteurs qui ont accepté d'apporter leur témoignage à cette soirée. Et je voudrais vous conforter dans le fait que vous pourrez rejoindre sur le site du Carrefour des Pays Lorrains une synthèse de cette fin d'après-midi. Donc n'hésitez pas à venir sur le site du Carrefour des Pays Lorrains pour avoir des informations sur ce qui s'est dit. Il y en a eu tellement, je crois que ça va être difficile pour moi de parler de tout. Donc voilà, très rapidement, on dit ce qui peut être la conclusion. Je donne la parole maintenant, vraiment pour finir la soirée, à notre hôte qui, elle, va nous faire une petite annonce sur ce que va être nos prochains sujets de rencontre sur les discriminations. Merci à tous pour votre participation.
Merci Jacques, et tu as très bien rempli ta mission parce qu'il était difficile, voire impossible de limiter la parole tant je crois que tous les intervenants ont été fort intéressants et je les remercie aussi M. Bonnet, vous nous avez donné un éclairage, je crois qu'on ne regardera plus jamais les choses de la même façon et qu'on se souviendra de ce que vous nous avez dit, ce que vous avez dit aujourd'hui. Oui, merci beaucoup Jacques. Moi tout simplement je voudrais vous dire que pour continuer donc dans cette démarche commune entre le Conseil Général, le Carrefour des Pays Lorrains et l'Association des Maires, c'est que nous allons vous proposer au niveau de ces discriminations peut-être un sujet. Alors je me demande quelles vont être vos réactions là tout de suite, mais dans un débat apaisé, je crois qu'on a envie de parler du mariage. Alors moi je n'aime pas dire le mariage pour tous, parce que je pense qu'on doit dire le mariage des homosexuels. Ce n'est pas un tabou de le dire. Et le débat, enfin, ce qui me concerne, je considère qu'il n'y a pas eu un débat national. Moi, je pense que les élus, en particulier, on a beaucoup à apprendre. Quelle est la différence entre un PACS et un mariage? J'ai des couples homosexuels dans ma commune qui sont parfaitement intégrés. Je vais dire à titre personnel que les mariés ne posera aucun problème. Par contre, je pose beaucoup plus de questions sur les enfants. La procréation médicalement assistée. Enfin, j'ai envie de vous entraîner dans ce domaine et dans cette réflexion, encore une fois, dans un débat apaisé. Je pense qu'on est d'accord, n'est-ce pas, Jacques ?
Tout à fait.
Bien. Voilà. Et dans un premier temps, bien, tout ce qui concerne cette soirée sera également sur le site de l'Association des maires. Donc, vous avez le choix. Le Carrefour des Pays Lorrains et l'Association des maires à votre disposition, à votre service.